Vous écoutez
RMC.
RMC.
Est-ce qu'on donne les clés du wagon à la locomotive à Malinowski ou...
Non mais c'est important Nico, parce que bien sûr je me la raconte un peu sur le hug avec tout ça. Mais
le vrai Tchouaméni, je pense qu'il a sa place en tant que titulaire au Real Madrid, et je suis sûr, je ne suis pas sûr, mais
il y a même Naples qui vient de perdre Lukaku, pourquoi pas mettre Rabiot à numéro 9. Non, je rigole.
Génération After,
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, et bonjour à toi qui nous écoute en podcast et qui nous regarde sur After Foot TV. C'est Génération After spécial Drôle de Dame, la seule émission à la radio qui parle pendant deux heures de football étranger, même quand un Premier ministre est destitué. Pour l'Angleterre, une drôle de dame qui a œuvré avec succès pour la destitution de Gareth Southgate, qui sera sa prochaine victime. Thomas Tuchel est-il à l'abri? Ruben Amorim est-il une cible potentielle? Julien Laurence est là ce soir. Bonsoir Julien.
Salut Nico, salut à tous. Gareth Southgate te passe le bonjour.
T'as des nouvelles ou pas d'ailleurs?
Pas du tout, pas du tout. Mais le fait qu'il n'ait pas retrouvé un club ou en tout cas un emploi, mais... même. Je pense qu'on est pas loin de la vérité quand même sur RMC.
Peut-être un peu de ta faute. C'est Julien en direct de Londres. Pour l'Espagne, une drôle de dame qui a réussi subtilement sa destitution de l'ex-drôle de dame espagnol. Un an pour la faire tomber. C'est pas beau, Edgar. Bonsoir, Edgar Grollo.
Salut Nico, salut tout le monde, et on embrasse Fred évidemment.
Évidemment, en direct de Madrid. Pour l'Italie, une drôle de dame qui aimerait destituer la musique italienne du patrimoine national, mais qui va devoir œuvrer toute la saison pour en faire la promotion. Bonsoir, Daniele Manusia.
Bonsoir, bonsoir Nico, bonsoir à toutes et tous.
En direct de Rome, et pour l'Allemagne, une drôle de dame qui destituerait bien tous les consultants du football. Bonsoir Paulo Breitner.
Bonsoir Nicolas, bonsoir tout le monde.
Les drôles de dames jusqu'à 22h comme tous les soirs. De quoi allez-vous nous parler ce soir? Messieurs, 15 secondes chacune, je commence avec toi Paulo.
Bah, on va se poser la question un petit peu comment l'Allemagne, la Nationalmannschaft va pouvoir sortir un petit peu de la situation délicate dont elle est, en regardant un petit peu son passé. La question qui est intéressante et qui fait beaucoup parler en Allemagne, c'est quel est le bilan du mercato estival et quelle est la place aujourd'hui de la Bundesliga dans le monde et en Europe, évidemment le football européen. Et puis une minute un petit peu spéciale, on va aller du côté du Bayern Munich.
Julien,
on va parler d'un débat qui enflamme un petit peu l'Angleterre, qu'on n'avait pas vu venir, celui-là entre Michael Owen et Wayne Rooney. On parlera aussi de la première journée du championnat féminin de la WSL avec beaucoup de Français, Françaises impliquées. Et puis, je sais plus ce qui me reste, je sais plus.
Bon, tu verras, c'est que surprise, voilà. Thème surprise. En fin d'after, on parlera notamment de Manchester City, mon cher Julien, qui ce soir est tombé d'accord avec la Première Ligue. On a quelques détails dans un instant. Daniele.
Alors on va parler de l'Italie de Gattuso. Il a gagné contre l'Estonie, mais dimanche on a vécu une journée un peu spéciale des sports. L'Italie est devenue un pays moins footballistique qu'autrefois. Est-ce que c'est nécessairement un mal? Non. Bon, après on va parler de Manu Koné, peut-être sous-évalué. Il y a eu une polémique avec SoFoot, la presse française en Italie, les supporters de la Rome évidemment, et de Scamacca, les grandes absents de ces deux jours, et un numéro 9 toujours atteint d'eux.
Edgar,
on va commencer par parler de l'Espagne et de sa victoire extraordinaire 6-0 en Turquie hier. On va essayer de comprendre surtout comment cette équipe est devenue aussi forte. On va se demander si on a forcément besoin d'un grand numéro 9 pour gagner une grande compétition comme la Coupe du Monde dans un an, parce que justement La Roja joue sans grand numéro 9 aujourd'hui. Et puis pendant la minute, on découvrira l'histoire assez dingue de Jorge de Frutos, qui vient d'un village de 92 habitants et qui a découvert la sélection espagnole ce soir.
C'est pas un nom que t'as inventé là, hein.
Ah non, c'est un vrai nom d'un joueur professionnel.
Très bien, tout à l'heure Edgar. À 22h, l'after bien sûr avec Gilbert. Bonsoir Gilbert.
Salut à tous, after également politique ce soir. Oui, parce que Joseph Ougourlian sera avec nous, le propriétaire de Lens. Gros coup de gueule avec son confrère propriétaire Franck Macron dans le Figaro. Ce week-end, vous avez sans doute suivi ça. Ils sont pas du tout contents de la gouvernance de la LFP. Rien ne bouge, pas de transparence. Bref, ils ont jeté un énorme pavé dans la mare de la LFP. Et Joseph Ougourlian sera avec nous tout à l'heure pour nous expliquer tout ça et en savoir plus. On parlera aussi évidemment du Racing Club de Lens. On sera également avec David Terrier, président de l'UNFP, le syndicat des footeux, président également de la FIFPro Europe, donc le syndicat européen des footeux. Plusieurs dossiers, la gouvernance parce qu'il est membre du CA de la Ligue, plus les cadences infernales, plus toutes les explications qu'il faut avoir sur l'arrêt Diarra qui pourrait révolutionner les transferts dans les semaines qui viennent. Voilà, un peu peu de politique effectivement aussi dans la soirée ce soir. Et puis demain il y a un match de l'équipe de France, donc également tous sur le France-Islande de demain soir au Parc des Princes.
France-Islande demain soir sur RMC dans l'After Live et le débrief dans l'After. Gilbert, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À partir de 22h jusqu'à minuit comme tous les soirs, et puis les nuits du Casar enchaîné, vous le savez, de retour hein, du lundi au vendredi de minuit à 1h30 du matin. Julien Casar, Jean-Christophe Drouet, c'est parti pour Génération After avec les drôles de dames. Alors cette question, l'Espagne est-elle injouable, Edgar? La sélection a balayé la Turquie en Turquie 6-0 en déroulant son jeu hein, qui lui a permis de survoler le dernier Euro notamment. Et le sentiment en Espagne que plus le temps passe, plus cette sélection est forte, qu'elle est sur une autre planète. T'as commencé à en parler hier soir, on peut entrer un peu dans le détail et savoir surtout qu'est-ce qu'on dit en Espagne. On est forcément émerveillé.
Oui, on est émerveillé et comme tu dis, plus le temps passe, plus cette sélection devient forte, parce que quand même depuis l'arrivée de Luis de la Fuente, ils ont remporté une Ligue des Nations plus une finale perdue cette saison. Ils ont remporté l'Euro 2024 en gagnant tous leurs matchs, et pourtant on parle de ce match hier en Turquie, et c'est important de dire en Turquie parce qu'il y avait une superbe ambiance notamment en début de match qui s'est très rapidement calmée. On parle de ce match comme l'un des meilleurs de l'ère Luis de la Fuente, comme l'un des meilleurs en tout cas hors grande compétition, l'un des matchs les plus mémorables de cette sélection. Et c'est vrai qu'honnêtement, devant le match, et je pense que ceux qui ont eu la chance de regarder ce match doivent avoir à peu près la même sensation, moi ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir devant un match international, hors Coupe du Monde, hors Euro, hors Copa América, c'est-à-dire les matchs où d'habitude, bon, on regarde, mais c'est pas toujours les matchs les plus passionnants. Là, c'était le cas. Je pense que pour ce match, on peut utiliser tous les superlatifs possibles, mais ce qui est intéressant, c'est quand même de comprendre comment cette Espagne est devenue un tel rouleau compresseur, parce que c'est vrai qu'hier on avait cette sensation qu'elle était inarrêtable, notamment offensivement, même si c'était faible défensivement en face. C'était sincèrement impressionnant. Je pense qu'évidemment il y a la qualité de l'effectif, mais il y a d'autres nations qui ont des effectifs tout aussi fournis, voire plus, et qui ne proposent pas le même jeu. Donc faut se pencher sur peut-être Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, il a instauré, j'ai l'impression, une confiance absolue à tous les niveaux. C'est-à-dire que chaque joueur a confiance en son coach, chaque joueur a confiance en ses propres capacités, c'est-à-dire peu importe le statut de chaque joueur en club, t'as l'impression qu'il peut performer au même niveau que son coéquipier pour la sélection nationale, qu'il joue au Real, au Barça ou dans un club moins huppé ou dans d'autres pays, t'as l'impression que le joueur arrive et il répond présent sur le terrain avec la Roja. Et puis t'as l'impression surtout que toute cette équipe-là met de l'intensité tout le temps, et de l'intensité ça veut pas dire courir partout, ça veut pas dire mettre des tacles, ça veut pas dire mettre des gros coups d'épaule. Non, ça veut dire que t'as une équipe aujourd'hui qui, de la première à la dernière seconde, déjà elle est concentrée, c'est important, c'est déjà pas le cas de toutes les équipes, mais c'est une équipe qui fait tout à 200%, même pour un match en début de saison en septembre en Turquie, quand tu gagnes déjà 3-0 ou 4-0, et qui fait tout à 100%, c'est-à-dire le pressing il est fait à 100%, les passes elles sont appuyées, les combinaisons on n'y va pas à moitié, les appels on n'y va pas à moitié, rien n'est fait à moitié en fait, et ce qui fait que le résultat, c'est que toutes tes actions se terminent par une frappe ou par un centre, et que ça c'est épuisant pour les défenses adverses en fait. T'as pas une action qui donne rien en fait, qui se termine un petit peu par hasard. Et je pense qu'ils épuisent leurs adversaires aussi.
Là, tu parles de management aussi, le discours de Luis de la Fuente, sa rigueur qui passe auprès de tous les joueurs. Alors, ce qui est étonnant, c'est que souvent, on a dit, où est l'Espagne? Si elle arrive à imposer un style caractéristique, c'est parce qu'elle est faite à 80% de joueurs du Real et du Barça, une identité très claire, une école de football très claire également. Là, en revanche, je regardais le coup d'envoi. Parmi les 11 qui ont débuté ce match en Turquie, t'en as 8, t'as 8 clubs représentés hein, côté espagnol. Ça veut dire que s'il y a une culture du foot espagnol, il n'y a pas toujours les mêmes écoles selon les clubs dans lesquels ils évoluent. Certains évoluent en Angleterre également. Comment on explique justement qu'il arrive à mettre en musique tout ça? C'est ça la question. Alors, il y a aussi son parcours. Hein. Il les avait en U19 et il les avait chez les Espoirs hein, pour la plupart. Hein. Il les connaît par cœur tous.
Oui, c'est ça. Déjà, Luis de la Fuente explique bien ça. C'est un coach qui, depuis 2013, quand même, hein, coach les équipes notamment de jeunes espagnols et toujours avec la même idée en place. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont des joueurs qui s'entraînent ensemble tout le temps, qui se connaissent alors qu'ils viennent de clubs différents, parce que c'est le résultat aussi d'années et d'années et d'années d'une stratégie globale de la fédération, c'est-à-dire que en jeune, eh bah, tu favorises le joueur technique, tu fais pas forcément attention s'il fait 1m80 ou s'il fait 1m60, parce que tu sais en plus qu'il va toujours grandir, tu favorises le joueur qui a une bonne vision du jeu, qui prend les informations, tu favorises le joueur qui a la science du placement, et donc tu favorises le développement, j'ai envie de dire cérébral
d'un langage commun en fait, c'est ça, d'un langage commun à l'arrivée. idée. Ouais.
Exactement, les joueurs sont formés déjà pour jouer ce genre de football-là et jouent déjà ce genre de football-là à un moindre niveau dans les catégories jeunes. Et c'est ça qui te permet en fait d'avoir des joueurs qui sont prêts en fait à être performants avec ce style de jeu-là. Ouais, et l'exemple type, par exemple, c'est le milieu de terrain hier. Tu commences le match avec Pedri, Zubimendi, Merino. T'as un résultat.
Ah, on a perdu Edgar. Bah justement, je me tourne vers vous, Daniele, Polo et Julien. Alors, est-ce forcément une particularité espagnole ? C'est vrai qu'on nous on écoute souvent Deschamps ici en conférence de presse. Il a dit Luis Enrique dans l'équipe en disant en sélection, on n'a pas le temps de développer du jeu, développer un style identifié, clair. Là, Luis de la Fuente prouve le contraire. Est-ce que ça tient uniquement à l'idée que développait à l'instant Edgar, à savoir que ces joueurs-là parlent le même langage ? Je ne sais pas qui va en parler, Julien, Polo ou Daniele.
Ouais, moi je pense que vas-y, ça tient beaucoup à ça. Ouais, déjà, moi qui ai regardé le match hier encore une fois. Alors après, le seul petit bémol que je mettrais, c'est qu'en face, très rapidement, ils ont fait quand même n'importe quoi défensivement. Mais c'était très beau à voir jouer. Le premier but de Merino, par exemple, après 25 passes où tout le monde touche le ballon dans la construction, c'est un bijou absolu. C'est plus facile quand tes joueurs ont l'habitude de jouer comme ça, parce que dans leur club, on presse, on joue comme ça aussi. C'est sûr, ça va être beaucoup plus. C'est pas facile à mettre en place, mais je pense qu'il s'est aussi appuyé sur quelque chose qui avait été mis en place avant lui, et il a simplement aussi un petit peu changé à sa sauce à lui, mais je pense que le travail fait avant lui a aussi été important.
Même si c'est pas l'Espagne du Qatar, hein, 2022, hein, Julien, elle est beaucoup plus directe, elle n'a jamais autant frappé au but, par exemple, tu vois, elle est plus caricaturale que celle de Luis Enrique, quoi.
D'accord, sauf que le fond de jeu était là, grâce à Luis Enrique, déjà. Après, si tu veux plus de verticalité une fois que t'as le fond de jeu, c'est quand même plus facile que l'inverse. Si tu es une équipe très directe et que tu veux faire du fond de jeu, là il faut travailler. Si tu as déjà le fond de jeu et que toi tu veux mettre plus d'intensité, plus de verticalité et plus de et d'être un peu plus direct, c'est plus facile avec une base de fond de jeu déjà développée comme lui il avait le cas. C'est pour ça que quand il arrive finalement, il veut s'éloigner de ce qu'avait fait Luis Enrique tout en gardant quand même la base de ce qu'avait fait Luis Enrique, et après c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il l'a mis à sa sauce, et là il a le meilleur des deux mondes en fait. Il
Exactement.
A et la possession et ce fond de jeu là, et puis en plus les joueurs capables de jouer en beaucoup plus vertical.
Et sûrement le management également. Daniele, tu voulais parler?
Oui, je voulais dire que c'est aussi une question de culture. C'est-à-dire, on peut avoir des idées, les améliorer, les changer. Guardiola, il a beaucoup appris en Allemagne, il a beaucoup appris en Angleterre. Donc voilà, son jeu de position, il a évolué. Et ça mène aussi à l'évolution du jeu de l'Espagne. Mais à la base, il y a une culture, une idée de jeu d'ensemble collectif que, par exemple, en Italie, on n'a pas, et on débat encore sur comment il faut jouer, s'il faut jouer à l'attaque, à la défense. On
s'il a joué faut une contre harmonie l'Est... générale, quoi, c'est ça, en Italie.
Oui,
par
voilà.
Exemple.
Ouais, voilà.
C'est ça.
Oui, nous, on a joué contre l'Estonie avec une équipe très offensive parce que l'Estonie, elle était bien plus faible que nous, on le savait, on devait rattraper des bouts à la Norvège et tout. Mais là, par exemple, ce soir, dans pas longtemps, dans quelques minutes, on va jouer contre Israël et on est déjà repassé au 3-5-2, tu vois. Mais si tu changes d'un match à l'autre, tu risques de pas t'en sortir, quoi. Des fois, t'as une bonne équipe, des fois, t'es meilleur, des fois. Mais si t'as une identité, je pense, l'Espagne, ça montre ça surtout.
Polo, c'est un sujet, j'étais aussi en Allemagne, apprendre le football à tous les espoirs du football allemand de la même façon, en tout cas avec le même langage, ou c'est plus un sujet?
Oui, l'Espagne est l'un des modèles du football allemand, mais je pense que c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre, il y a la question de la confiance, parce que qu'est-ce que c'est que l'Espagne dans le football mondial, lorsque tu reviens dans les années 90, les années 80, les années 70, etc. Moi, je suis désolé, je parle un peu comme un ancien, mais on disait toujours à l'époque que les Espagnols avaient des belles sélections, etc. Sauf que ça ne passait jamais les huitièmes ou les quarts de finale. Et il y a eu, il y a évidemment le titre 1964, mais j'étais pas né, donc je pourrais pas vous parler de ça, à l'Euro. Mais en fait, il y a eu depuis 2008 et 2012, enfin la période 2008-2012 et maintenant, comme si une nouvelle Espagne était née, qui avait surtout la confiance dans son jeu. Je constate qu'on joue aujourd'hui en 4-3-3 en Espagne, comme jouait le Barcelone il y a 15 ans aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que dans le football mondial, l'Espagne a remplacé l'Allemagne. C'est-à-dire que quand tu rentres sur le terrain, c'est pas qu'une question de technique, c'est que tu sais que tu mènes un zéro déjà dès que tu as commencé là. Donc c'est pas que maintenant, moi seule chose que je n'ai pas d'explication, c'est comment se fait-il que dans les années 80, Par exemple, l'Espagne avait aussi de belles sélections, mais ça ne passait jamais. Et pourquoi maintenant ça passe depuis 98, même d'une façon parfois un peu spéciale, parce que lorsque tu vois les matchs de 2008-2010 et la domination technique et physique des Espagnols qui pourtant ne ressemblent pas à des Golgoth au rugby, moi ça me pose énormément questions en tout cas. Mais je constate que Daniele souhaite parler de différents sports. Je constate qu'en Espagne, on n'est pas bon qu'au football. On est bon dans différents sports aussi. Donc tout ça est fait par. Et c'est assez relativement récent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu des grands champions avant. Mais en tout cas, il y a une forme.
Le cas d'une confiance générale, quoi. C'est-à-dire une croyance en notre capacité à être les meilleurs, tous sports confondus.
J'ai toujours en tête l'Euro 84, qui les Espagnols, personne veut les rencontrer parce que à chaque compétition, mais c'est un peu comme les Anglais de l'époque, il y avait des belles générations, mais ça ne passait jamais les huitièmes et quarts. Moi, j'ai l'Euro 84 en tête puisque l'Espagne à ce moment-là va être en finale avec la fameuse Arconada et tout ça. Ils sortent l'Allemagne en phase de poule dans les dernières minutes, et t'as l'impression qu'aujourd'hui ils pourraient le faire à chaque match contre l'Allemagne. Alors à l'époque, c'était un peu considéré comme un exploit parce que il y a le titre à l'Euro dans les années 60, en 64, mais dans les années 70, les années 80, ils passent pas les huitièmes, les quarts. Et on a le sentiment que la période 2008-2012, où ils ont tout raflé, ils étaient la nation numéro 1 dans le monde, ils ont cette forme de confiance qui dépasse largement, pour moi, le système technique et physique.
Tout à fait, parce que quand on regarde le 11, là, contre la Turquie, par exemple, Edgar, on n'a pas 11 références mondiales à leur poste absolu, tu vois, de Pedro Porro à Robin Lenormand, à Cucurella, Zubimendi qui est un très bon milieu de terrain, Mikel Merino qui met un triplé, qui s'est transformé en buteur à l'âge de 29 ans. Bon, il y a Lamine Yamal bien sûr, il y a Nico Williams aussi, Oyarzabal n'est pas considéré comme un
Nico Williams par exemple, c'est un joueur qui n'a jamais joué la Ligue des Champions, hein. C'est une star, mais c'est pas non plus une référence à son poste. Et je pense que c'est la force de Luis de la Fuente, c'est de faire en sorte, comme je disais au début, d'exploiter au maximum le niveau de chacun. Et j'ai été coupé tout à l'heure, il y a un problème de connexion quand j'ai commencé à le dire, mais il te manque des joueurs hier, par exemple au milieu de terrain comme Rodri, comme Fabien Ruiz, tu peux même parler de Daniel Mo, Fermín López, Gavi, la liste est longue en fait, et c'est des joueurs qui s'intègrent très facilement. Par exemple l'exemple de Dino Huysen qui n'avait pas un rôle important jusqu'à très récemment, puisque ça fait que quelques mois qu'il est en sélection. Maintenant tout de suite t'as l'impression presque que c'est un taulier, que c'est un joueur très très important, t'as l'impression qu'il joue avec ses coéquipiers depuis un moment, parce que il parle le même football, et parce que surtout Luis de la Fuente leur donne cette confiance là et ce que disait Polo est très juste sur la mentalité espagnole, c'est que c'est un pays, j'ai l'impression, qui vit encore avec la confiance des années 2010 dans le sport, c'est-à-dire avec le football qui a tout dominé, avec un Rafael Nadal au tennis qui a tout dominé et qui a représenté la mentalité espagnole dans le sport. C'est un pays de grands athlètes, pas forcément de nombre d'athlètes, mais de grands athlètes, et ils surfent sur ça, ils surfent sur cette confiance là comme Alcaraz surfe sur cette confiance au tennis. Au foot, on surfe encore sur cette génération là et sur cette idée que l'Espagne, quand elle joue son football avec ses meilleurs joueurs, elle peut battre n'importe qui, elle va battre n'importe qui, et les Espagnols sont persuadés d'avoir la meilleure équipe au monde, évidemment.
Même s'il y a eu un trou d'air, un post-2012 pour l'Espagne, avant de revenir fort depuis 2 ans et demi maintenant. Tiens, comme la question initiale, c'était est-ce que l'Espagne est devenue injouable ? Je vois que beaucoup écrivent, c'est bon, là, sur les réseaux, et notamment certains sites de foot, la Coupe du Monde est déjà remportée par l'Espagne, 2026. Qui vous semble capable de bousculer cet Espagnol-là? Comment faire, surtout Julien, comment on en parle en Angleterre justement? Est-ce qu'on se dit, bon voilà, on est à quoi, 10 mois du mondial, on sait déjà comment ça va tourner?
Non, pas du tout. Je pense que on l'a vu contre le Portugal, par exemple, en finale de la Ligue des Nations, où d'accord, ça finit au tir au but, où ils ont beaucoup plus de possession, ils ont beaucoup plus de frappes, d'occasions que le Portugal, mais au final ils s'inclinent quand même, donc ils sont pas imbattables non plus. Encore une fois, la Turquie hier, je l'ai trouvé très très naïve, même si ça allait beaucoup trop vite pour elle, mais ils ont 2 occasions, ils peuvent mener 2-1 à un moment aussi, donc ça peut aller dans l'autre sens aussi. Mais c'est vrai que cette équipe là, elle est exceptionnelle à voir jouer, même en comme l'a dit aussi Edgar, sans encore certains de ses cadres comme Carvajal ou Rodri, qui n'était pas titulaire hier en Turquie. Donc ce sera le favori, je pense, au-dessus des autres, au-dessus même légèrement de la France, et au-dessus des autres quand arrivera la Coupe du Monde 2026.
Mais n'oublions pas l'Argentine aussi.
Oui, l'Argentine, ouais, mais ça fait pas la même impression quand tu auras l'Argentine, même l'autre soir contre pour le dernier match de Messi à domicile, là, c'était pas aussi beau que ce qu'on a vu hier, ça c'est sûr.
C'est ça, ouais.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais après, c'était, ça, c'est pas parce qu'ils sont favoris qu'ils vont forcément facilement gagner la Ligue des Champions, la Coupe du Monde.
Voilà pour l'Espagne qui jouera la Géorgie lors du prochain rassemblement de la Géorgie de Willy Sagnol. C'est la première minute de la soirée. Elle est allemande. On envoie la musique, Paulo.
Ça faisait longtemps que j'avais pas mis Rammstein, je crois. Donc la chanson, c'est Rheinrost, donc dehors, dedans, etc. Et ce week-end, évidemment, comme je vous le disais, on a fait un peu les bilans du mercato estival. Et surtout, Lyonnais était invité à Doppelpass et n'a pas pu s'empêcher de mettre un tacle à son manager, Max Eberl, le directeur sportif. Depuis quelques semaines, court le bruit que Max Eberl va partir du Bayern Munich, ce qui montre en fait, et c'est pour ça ma minute, la difficulté d'être directeur sportif au Bayern Munich. Et surtout, Eunès a fait comprendre que Max Eberl, il en avait un petit peu marre parce qu'il le trouvait un petit peu trop susceptible et qu'il devrait comprendre et évoluer un petit peu à ce niveau-là. Donc on voit la difficulté quand même de ce poste au Bayern Munich. Donc certains disent que Max Eberl n'a pas l'étoffe pour être directeur sportif au Bayern Munich. Moi, je me demande qui a l'étoffe. Si vous pouvez me citer des grands noms directeurs sportifs sur les 30-40 dernières années, excepté Uli Hoeneß, il n'y en a pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Max Eberl a été pendant des années, notamment par son passage à Mönchengladbach, comme le meilleur manager d'Allemagne. Je veux dire, et donc on voit la difficulté, lui qui est bavarois, de réussir au Bayern Munich. Donc c'est pour ça, j'ai utilisé cette minute. Dehors, dedans, on va voir ce qui va se passer avec Max Eberl, mais en tout cas, sa position devient de plus en plus délicate.
C'était la minute, Rammstein de Polo. Dans un instant, tiens, on parle de Gennaro Gattuso qui a réussi sa première face à une faible Estonie. T'as commencé à en parler, Daniele. Est-ce qu'il redonne l'espoir à toute l'Italie et puis également au programme? Comment le football allemand peut-il sortir de la crise? En tout cas, la Nationalmannschaft, surtout, qui a été battue par la Slovaquie avant de se reprendre ce dimanche. Restez avec nous. Les Drôles de Dames sont sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Daniele Manoussi, Edgar Grollo, Julien Laurence et Polo Breitner. Polo, ton choix Rammstein du soir plaît beaucoup sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Il faudrait même pendant la pub du Rammstein sur RMC. Pourquoi pas? On va en parler à la régie publicitaire d'RMC, c'est pas gagné. Gattuso, Gennaro Gattuso est-il le nouvel espoir de l'Italie? Daniele, on en parle avec toi. Bien sûr, je vais un peu fort, forcément. Sa deuxième ce soir contre Israël à 20h45. Il faut gagner pour prendre la deuxième place derrière la Norvège, qui pour l'instant a fait un carton plein, qui avait étrié l'Italie il y a quelques mois déjà. Alors sa première vendredi d'abord, revenons là-dessus, Daniele. Victoire 5-0 contre l'Estonie, je précise. Oui. 126e nation au classement FIFA. C'est-à-dire que c'est pire que la Lande du Nord qu'on a vu hier soir. Il en fallait pas plus pour créer presque un nouvel espoir dans ton pays, oui. Daniele.
Tout à fait, tout à fait. Ça va. Chacun, tu sais, les pouvoirs, c'est relatif, quoi. Nous, battre l'Estonie 5-0, ça nous fait un petit plaisir après avoir été humilié par la Norvège ou la Suisse dans les derniers championnats d'Europe. Donc voilà. Non, mais j'ai plaisante, mais l'Italie, elle est dans un moment de crise avec l'équipe nationale depuis longtemps. On a presque oublié qu'on a gagné les championnats d'Europe en 2021, aussi grâce au fait que Roberto Mancini, il est parti en Arabie Saoudite dans un moment très délicat. Donc il a un peu fait oublier aussi ses succès. Mais l'Italie, elle devait un peu remonter, un peu en puissance après les 3-0 pris à Oslo. On sait que ça a coûté les bains à Spalletti. Et on sait aussi qu'ils n'avaient pas d'autres entraîneurs. Ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un qui voulait entraîner l'Italie. Et c'était un peu... Les bancs, ils étaient peut-être trop chauds, brûlants, voire même. Ils ont essayé de demander à Ranieri de faire deux travaux en même temps, c'est-à-dire dirigeant de la Roma et entraîneur de l'Italie. Même lui, il a dit non. Il est assez âgé. C'est déjà beaucoup de lui demander de faire un travail, pas deux. Et Gattuso, quand ils ont sorti le nom de Gattuso, c'est un peu... tombé de nulle part, parce qu'on savait qu'il entraînait Hajduk Split, et il est arrivé troisième, il n'a même pas gagné le championnat, il a perdu le match le plus important de l'année, il a fait une mauvaise figure à la télé croate, où il a en gros menacé un journaliste, ancien joueur, donc voilà, c'était un peu bizarre. Mais en même temps, Gattuso, c'est quelqu'un de sympathique. Les Italiens, ils se revoient beaucoup en lui. On parle déjà du fait que lui, il a motivé les joueurs avec des gifles. Et lui, il a dû même expliquer. Oui, lui, il a dû même dire en conférence de presse, moi, j'ai pas donné des gifles parce que les joueurs, ils disent, oui, il nous a pris à gifle et tout. C'est quelque chose que les Italiens aiment parce que ça simplifie tous les discours qu'on vient de faire. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas des infrastructures, que ça fait longtemps qu'on n'a pas des talents des très très haut niveau, qu'on a des talents intéressants, pas spécialisés, très, on va dire, fluides, très adaptables à différentes équipes, mais après, on n'a pas la culture pour jouer un foot vraiment offensif, vraiment moderne. Et donc voilà, Gattuso, il a gagné avec une équipe très offensive, il a mis Moïse Kean, Retegui, deux numéro 9. Il a mis aussi deux ailiers offensifs, Politano, Zaccagni, et surtout, il a mis un milieu terrain très léger, Barella, Tonali, et une défense avec, moi j'adore, hein, deux joueurs très techniques, Bastoni et Calafiori. Et on disait, bah oui, c'est exagéré, c'est risqué. On a même un peu risqué avec l'Estonie, on a marqué les premières buts après une heure de jeu. Après, on s'est laissé, mais on a pris quelques risques. Et Gattuso, tout de suite après le match, il a dit, bon, on ne va pas jouer comme ça dans des matchs des niveaux un peu plus hauts.
Et dès ce soir, déjà, non ?
Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Là, ce soir, il a enlevé un attaquant, il a remis un milieu. Il a enlevé Zaccagni et on va jouer 3-5-2. Et avec Ken et Retegui toujours l'un à côté de l'autre. Et Locatelli devant la défense, avec une défense un peu plus structurée, parce qu'il y a Mancini, Bastoni et Di Lorenzo, et Di Marco sur tous les côtés droit, gauche. Donc voilà, on est un peu revenu arrière. Gattuso, il se plaint de la question des talents en Italie. Il a dit, je sais pas combien de milliers d'oratoires ont été fermés, combien de gens ne jouent plus dans la rue, comme il y a 20 ans, etc., etc. Tout ça, c'est très vrai. C'est vrai aussi que, pendant que l'Italie de foot perdait un peu de charme, on va dire, on a eu des succès dans d'autres sports, l'athlétisme, le tennis avec Sinner. Quand on a perdu contre la Norvège juin dernier, la Gazzetta dello Sport publiait en première page « Heureusement qu'il y a Sinner ». Et là, ce dimanche-là, il y avait, nous on n'est pas habitués, vous savez, vous l'équipe, elle a toujours un œil sur d'autres sports. La Gazzetta dello Sport, nous on se plaigne de l'inverse, que même si une équipe italienne d'un sport qui c'est pas le foot gagne les championnats du monde, il y a, je sais pas, échange Vlahovic, Milan, Juventus. Ben là, quelque chose a changé, parce que dimanche dernier, il fallait aller à la page 12 pour retrouver le foot. Parce qu'il y avait Sinner, il y avait l'équipe de volley féminine qui allait jouer la finale de la Coupe d'Europe et ils ont gagné contre du monde, désolé, c'est pas la même chose, contre la Turquie et après avoir gagné l'année dernière les Jeux Olympiques avec Velasco, qui c'est complètement différent de tous les entraîneurs. Justement, là, on parlait de quelqu'un de très improvisé, les entraîneurs, les dirigeants. Ben, Velasco, c'est un homme de sport très important. Depuis des années 80, il gagne en Italie. Il a gagné avec la génération des phénomènes au volleyball masculin. Il avait gagné, je pense, trois fois la Coupe du Monde, deux fois les championnats d'Europe.
Mais Daniele, tu penses que c'est une tendance qui s'inverse là, ou c'est juste ponctuel? Le jour où l'Italie redeviendrait grande en football, à savoir, pourquoi pas, imaginons, dans les soit un prochain Euro, soit au prochain Mondial, le foot va revenir et tout avaler à nouveau, j'imagine, quand même.
Déjà, si c'est un miracle, un peu comme c'était les championnats d'Europe, qui laisse l'impression que, oui, on a gagné parce qu'on était un peu chanceux, on a bien joué, mais voilà, il n'y a rien de solide, il n'y a pas des joueurs, il n'y a pas de Lamine Yamal, il n'y a pas d'Mbappé, il n'y a pas de Dembélé, il n'y a pas même pas de Wirtz, il n'y a pas de, voilà. On est un peu, jusqu'à qu'il n'y a pas ces personnalités-là, je pense que l'Italie a un peu de mal. Et en plus, avec Sinner, avec l'athlétisme.
Excuse-moi. Gagné 2021, comme ça.
Oui, mais moi, justement, je viens de le dire.
L'équipe était extraordinaire parce que c'était de la classe moyenne, c'était la victoire de la classe moyenne.
Oui,
c'est-à-dire
tout
que
à fait,
c'était une équipe, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, c'était des bons joueurs, mais pas des joueurs d'exception. Et c'était génial parce que ça montrait que le collectif pouvait compenser un déficit de... Voilà, quand j'ai vu le premier match de l'Italie en 2021, j'ai dit les futurs champions d'Europe, c'est eux, quoi. C'est parce qu'il y avait quelque chose, donc t'as pas besoin d'avoir des 10 ballons d'or sur le terrain pour faire des grandes équipes nationales.
Oui, mais déjà, en Italie, on n'aime pas la classe moyenne, c'est-à-dire ça se voit même dans la société. Et deuxièmement, quand on a gagné, moi, c'est ça la leçon que j'ai retenue moi aussi. Mais justement, les gens en Italie, ils sont nostalgiques de l'époque des Totti, des Baggio, des Del Piero. C'est ça les joueurs qu'ils aiment, c'est ça les joueurs dans lesquels ils se voyaient avant. Il faut dire aussi que c'est une société... qu'elle a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir dans les années, donc elle se revoit aussi dans une époque plus riche. Ça, les deux choses vont un peu ensemble. Mais sur le côté sport, le championnat de 2001, moi je pense c'était aussi, il y avait aussi des joueurs exceptionnels. Il y avait Verratti qui a marqué presque un but, parce qu'après c'est pas lui qui a marqué, mais il a été très décisif en finale contre l'Angleterre avec la tête. C'est exceptionnel, c'est un joueur exceptionnel qu'on devrait se rappeler dans l'histoire du foot italien, mais on l'a oublié, comme on a oublié la beauté de Barella, de Tonali quand ils sont en forme, la qualité de Bastoni. Il y a beaucoup de critiques sur cette génération-là parce que il manque quelqu'un qui est au-dessous de l'eau, il est au-dessous des autres. Moi, je pense que, pour répondre à ta question, Nico, je pense que la tendance va pas s'invertir. Il y a beaucoup plus d'inscriptions au tennis en ce moment, au volley, à l'athlétisme. Et je trouve que c'est aussi pas de mal, parce que c'est des sports déjà moins toxiques sur le point de vue de la communication. Sinner, il a perdu contre Alcaraz et il a dit qu'il était meilleur. On l'a bien vu qu'il était meilleur, mais il n'y a pas eu de polémiques. Il n'y a pas eu de « ah, mais tu pouvais faire plus, ah, mais tu n'as pas eu la mentalité ». Lorsque dans les foot, il y a toujours, ils veulent toujours qu'ils gagnent tout. Qu'ils soient les plus forts. Sinon, regarde l'Inter contre PSG.
Tu veux dire que c'est toxique même au niveau de l'opinion publique, ce que tu veux dire, quoi.
Tout à fait, tout à fait. C'est moins toxique, c'est moins. C'est plus, on peut même perdre.
Parce que Sinner a gagné des grands titres aussi récemment, hein, la différence par exemple de l'Inter qui attend de gagner cette Ligue des Champions depuis quelques années quand même.
Oui, mais bon, deux finales.
Qui avait déjà
ans.
Perdu une finale face à City.
Oui, mais justement, deux finales en trois ans, jouer contre City, ils ont presque gagné ces finales, ils ont quand même été au niveau, c'est quand même assez exceptionnel, il faut pas non plus prétendre de gagner. Justement, en Italie, on disait, si on perd la finale, ça veut dire qu'on a gagné les autres matchs. En Italie, on dirait que les meilleurs, c'est ceux qui perdent en huitième des finales. Comme ça, ils jouent même pas la finale. C'est un peu paradoxal, tout ça. Justement, on sort contre la Macédonie du Nord et on fait pas la Coupe du Monde. Ça va pas. On fait la Coupe du Monde, on perd en finale, c'est encore pire. Non, moi j'espère, j'aimerais bien aller jouer une finale. Je sais pas.
Bon, après, c'est vrai.
Ça vaut pour la France aussi.
C'est un recul général du football italien depuis de nombreuses années, qui a usé peut-être un petit peu une partie de l'opinion publique italienne dans son rapport au oui. foot, oui, certainement.
Bon. Oui, tout à fait.
Voilà pour l'Italie qui joue contre Israël, coup d'envoi dans quelques minutes. Donnarumma bien sûr dans le but, tu l'as dit, hein. Moïse Keane et Retegui. On attend beaucoup en Italie de ce duo sur le front de l'attaque de la nationale. Tiens, dans un instant, Julien voudra trancher un débat qui a pris feu sur les réseaux sociaux. Qui était le meilleur jeune anglais, Wayne Rooney ou Michael Owen? Pourquoi maintenant, tu vas nous dire? Et puis comment le football allemand, la Nationalmannschaft, hein, peut redevenir? Eh bien, l'épouvantail du football européen, voire mondial. On va en parler avec Polo et avec vous, tous ensemble sur RMC. A tout de suite, c'est les Drôles Dames. Ils sont là jusqu'à 22h.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les quatre Drôles de Dames ce soir jusqu'à 22h. Vous nous appelez au 32-16. Posez vos questions à Julien, Daniele, Edgar et Polo également. C'est parti pour les matchs de qualif de la soirée, notamment Italie-Israël, Italie en cours. On a aussi Biélorussie-Écosse. Julien, tu devras un œil dessus, j'imagine, quand même. Surtout en Biélorussie. Ouais, c'est sûr? T'es devant la télé, là?
Ouais, bien sûr, j'ai la télé devant.
Très bien. Grèce-Danemark également dans le même groupe. On aura Suisse-Slovénie également qui vient de débuter. Kosovo-Suède.
Avec Šeško en face.
Exactement, Šeško qui est en face. Et Polo, tu gardes la parole puisqu'on voulait parler de la Nationalmannschaft ce soir, bien sûr, qui respire un petit peu mieux. Victoire ce dimanche contre l'Irlande du Nord, 3-1. C'était pas fameux. Après la défaite jeudi contre la Slovaquie, hein, la Nationalmannschaft a encore du mal à confirmer, en tout cas à être encensée par les observateurs. Toujours derrière les Slovaques, hein, dans cette campagne de qualification. Comment tu qualifies la situation de la Nationalmannschaft, Polo? Sélection qui reste sur 4 gros échecs en compétition internationale, justement. Certains l'ont peut-être un petit peu oublié.
Est-ce qu'on parle de crise profonde, structurelle, conjoncturelle?
Oui, oui,
c'est quelque chose
c'est vraiment
profond.
Crise structurelle quand même. Il y a autre chose. C'est intéressant parce que je pense que c'est la deuxième plus grande crise du football allemand après celle de, on va dire de 98-2004. Même s'il y a eu la finale de la Coupe du Monde 2002, mais c'était pas une grande équipe d'Allemagne. C'est une équipe qui avait été portée par Ballack et Oliver Kahn évidemment dans les buts. Ce qui me frappe, si tu veux, c'est que moi, alors peut-être que je suis trop âgé. Mes grilles de lecture de la sélection allemande que j'ai adorée, que j'ai adulée, j'ai le sentiment qu'elles ne sont plus compatibles avec ce que je vois aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais essayer de m'expliquer. L'histoire de la Nationalmannschaft, c'est, je crois qu'il n'y a pas un seul pays européen qui est comme ça. L'Allemagne, à post-1945, mon post-nazisme, s'est construite autour de trois valeurs. La première, c'est le Deutschmark. La deuxième, c'est le secteur secondaire, donc l'industrie allemande, le fameux Made in Germany. Et puis, l'Allemagne du football, et notamment la sélection allemande, qui raflait tout dans les années 70, etc. Le Deutschmark, évidemment, a disparu, ce qui n'a pas été accepté par beaucoup de personnes en Allemagne. Le secteur secondaire, on n'en est plus là. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, et la sélection allemande vit une évolution qui fait qu'elle n'est plus celle qu'elle a été. On a parlé de l'Espagne tout à l'heure. En 5 compétitions européennes, les Espagnols ont gagné 3 euros, si bien que c'est eux aujourd'hui les maîtres de l'Europe, alors que les Allemands avaient cette fierté de se dire que de toute façon il suffit qu'on arrive à 1 euro pour être en finale ou gagner le titre. La question de savoir c'est pourquoi ça arrive maintenant. Mais pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut peut-être comprendre ce qui s'est passé, la grande crise de, on va dire, jusqu'à l'Euro 2004. Donc rappelez-vous, la Coupe du Monde 98, l'Allemagne très très vieillissante, Lothar Matthäus a 38 ans, se fait complètement jarcler du tournoi, joue très mal, se fait dégager par la Croatie. On a l'impression que c'est une Allemagne qui ne sait pas jouer, qui est vieille, qui ne comprend rien au football moderne. Et en fait, c'est ça. C'est une Allemagne qui n'a rien compris au concept moderne du football. Arrigo Sacchi a déjà réformé le football mondial avec le Milan AC dans les années 90. Il a inventé, entre guillemets, la défense de zone, alors que les Allemands sont encore en individuel. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un mec qui s'est appelé Beckenbauer dans les années 70, et c'était le rôle de libéro. Et tout ça, pendant 25 ans, les Allemands ont utilisé le même schéma de jeu pour essayer de trouver le nouveau Beckenbauer, et ça a fonctionné. Mais déjà dans les années 80 et au début des années 90, on sent que ça va péricliter. Mais il se passe un truc extraordinaire en Allemagne, c'est la réunification qui amène une nouvelle matière première entre guillemets, donc les Allemands de l'Est, évidemment. J'ai oublié le Ballon d'Or 96. Oh là là,
Zammer.
Zammer, évidemment. Ulf Kirsten, etc. Ballack. Donc ça permet un peu de continuer la belle histoire de la RFA et de l'Allemagne réunifiée en disant que ça va. Mais en fait, tactiquement, l'Allemagne est complètement larguée. Il n'y a plus d'entraîneurs de très haut niveau. Ils sont complètement dépassés par les Italiens, notamment, encore une fois, je viens de le dire. Ils se prennent des raclées, rappelez-vous, à l'Euro 2000, la pâtée qu'ils se prennent face au Portugal et tout ça. Et donc, il y a un moment, ils lèvent le doigt, les Allemands, ils disent « Ouh là là, ça va pas ». Et donc, on nomme Jürgen Klinsmann, qui lui, justement, est un peu anti-allemand dans sa façon de penser, pour essayer de réformer tout le football allemand. Et ça va amener, évidemment, la fameuse Coupe du Monde 2006, la demi-finale. Puis ensuite, ils vont être, rappelez-vous, à 2008, finaliste de l'Euro, demi-finaliste avec une nouvelle génération Coupe du Monde en Afrique. On n'attendait pas du tout, rien du tout. Il y a eu ensuite, alors l'Espagne dominait à l'époque, donc il y a la demi-finale de 2012, et puis le titre mondial 2014, et ensuite, c'est un peu la fin de la génération. L'Euro 2016. Ce qui est passionnant, c'est qu'en 2018, lorsqu'il y a le gros clash de la sélection allemande qui se fait sortir en phase de groupe, c'est qu'un an avant, je reçois des coups de fil de beaucoup de journalistes français qui bossent pour des concurrents de RMC pour m'expliquer que, Polo, la Coupe du Monde 2018, c'est à nouveau pour les Allemands. Les Allemands ont remporté le championnat d'Europe Espoir avec une équipe à prime. Ils ont remporté la dernière Coupe des Confédérations avec une équipe à prime. Et on sent qu'il y a à peu près un groupe de 50 personnes qui peuvent aller à la Coupe du Monde. Et on se dit, bon, c'est tranquille pour les Allemands. Finalement, on voit ce qui est arrivé. Et depuis, on traîne un peu ce boulet sans comprendre ce qui se passe.
On nous parle de crise de qualité. Je suis désolé, quand t'as Wirtz et Moussiala sur le terrain.
Mais c'est quoi alors? Bon, c'est une crise de mentalité en réalité, à l'image de la cité allemande peut-être, qui est moins, je veux dire, conquérante, moins sûre d'elle alors, aussi.
La question de conquérant est très très importante, puisque n'oublions pas, on pourrait revenir d'ailleurs à France-Allemagne 82, France RFA 82, où cette Allemagne qui dominait tout, qui se baladait en BMW quand c'est pas en Mercedes, c'était pas forcément bien vu dans le reste de l'Europe, c'est parce sûr. Que c'était riche et ils montraient leur richesse, etc. Et en fait, beaucoup de personnes, on va dire le centre gauche allemand pour le dire simplement, ou les fameux progressistes, sociétalistes, etc., ont fait comprendre que gagner systématiquement pour la Nationalmannschaft n'était pas forcément très très intéressant. Évidemment, en face, le conservatisme Bildt en premier va dire mais vous êtes tarés, vous êtes des fous, nos vieilles valeurs, on se bat, etc. On les avait d'ailleurs retrouvées à l'Euro 96. Ces valeurs, ce n'est pas une grande sélection à l'Euro 96, mais elle va chercher. L'Italie, d'ailleurs, à l'époque, est largement meilleure, le fameux match de poule, et les Allemands vont l'emporter. Et là, maintenant, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'on a une sélection, si on part du principe que la sélection représente le pays, ben celui qui m'explique ce que c'est qu'aujourd'hui l'Allemagne dans le monde, je parle en politique, en économie, je ne sais pas trop, et ça peut être que ça se retrouve dans le monde du football, dans une génération de footballeurs dont on ne sait pas trop ce qu'ils sont. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de bons joueurs. Quand tu as un joueur qui est au Real Madrid, même s'il est plus.
Mais non, mais toi, tu parles depuis longtemps sur RMC, Polo, de jeunes garçons très sympas, voilà, gentils.
Ouais, ils sont. Alors, la fameuse gentillesse, ça, c'est ce qu'on disait. C'était à l'époque les Jürgen Klopp, les boobies, donc les garnements de Jürgen Klopp. En fait, quand tu les voyais dans la presse allemande, tu avais l'impression qu'ils allaient tous à 16h voir la grand-mère qui allait leur offrir une part de gâteau et tout ça. Il y avait toute cette façon. C'est pour ça que quand nous. Ma génération, on voit un Joshua Kimmich pleurer en huitième de finale à Wembley parce qu'il perd contre les Anglais. Je veux dire, Polo, tu perds pas en huitième de finale.
J'entends ton développement, mais il y a d'autres moyens de gagner également avec une autre mentalité. On parlait de l'Espagne tout à l'heure. Ils ont tous des gaines de gentils garçons, très, très doués également, très talentueux. Est-ce que l'Allemagne ne peut pas gagner avec une approche différente aussi? Peut-être un peu moins conquérante, viriliste de presse, j'ai envie de te dire.
Oui. C'est ça le truc. C'est ce qu'ils ont fait en 2014.
Exactement.
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette révolution, ce qu'on appelait la révolution footballistique allemande? Il faut bien comprendre qu'à l'époque, le chantier de football allemand, donc à partir fin 2004, après l'Euro 2004, qui est dramatique, on a comparé ça, justement, quand je parle de chantier, au chantier berlinois, c'est-à-dire de la réunification, lorsqu'il y avait des grues partout à Berlin qui construisaient à l'est, à l'ouest, pour changer tout ça. C'était le plus gros chantier d'Europe. Et le football allemand était le plus gros chantier du monde. Il faut se rendre compte de ce que c'était à l'époque. Ils sont partis partout dans le monde, voir comment ça se passe au Brésil, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, dans tous les pays, etc. C'est pour ça qu'il y a des relations de plus en plus développées avec le Japon, etc. Et ensuite, donc, ça a mené à la victoire de 2014, mais avec une mentalité très différente. C'est la fameuse Flach hiérarchie qui avait été mise en place par Joachim Löw, c'est-à-dire une hiérarchie horizontale. Quand tu connais un petit peu les Allemands, historiquement, l'horizontale, eux, c'est plutôt der Chef ad Gesagt, le chef a dit.
La verticalité, l'autorité incarnée par un chef.
C'est un truc qui peut-être fonctionner, qui d'ailleurs a fonctionné, même s'il y a une énorme différence entre l'Euro 2008 encore, on va dire la génération Philippe Lahm, mais celle de 2010 avec Mesut Özil, Manuel Neuer et tout ça. C'est très différent, et quand tu écoutes les anciens, qui d'ailleurs tu pourrais très bien les traiter de conservateurs, quand tu parles avec un Thomas Helmer, que tu lui parles de cette fameuse hiérarchie horizontale, il devient tout rouge. C'est-à-dire, c'est un débat qui n'existe pas en France. C'est en gros sur le terrain, chacun s'occupe de sa petite zone, etc. On est gentil avec tout le monde, blablabla. L'histoire du football allemand, ce sont des Leitwolf, des chefs de meute. Tous des grands. Alors, on peut le critiquer, on peut trouver ça nul, on peut trouver tout ce qu'on veut, etc. Sauf que ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, quand je vois cette sélection, déjà, ce n'est pas une équipe, en tout cas, ce qu'on a vu jeudi et ce week-end, dimanche. Et surtout, tu ne vois plus de grands leaders. Mais le problème, c'est de savoir, est-ce que c'est l'Allemagne, dans sa globalité, qui a changé, qui ne veut plus de chef parce que ça rappelle des périodes compliquées, etc. Sauf qu'il raflait tous les gars pendant le football. Beckenbauer était un chef, faut dire. Paul Breitner était un chef. Je pourrais te citer encore, Effenberg était un chef de meute.
C'est quelqu'un qu'on l'aime, on l'aime pas. Un chef de meute aussi, mais plus récemment.
Aujourd'hui, tu regardes ces générations,
Bah, je sais mais pas.
Le moi, souci pour lui, c'est que même ton sélectionneur n'est pas un vrai chef de meute. C'est ça le problème, en l'occurrence.
Ah ben, il n'a pas d'histoire, évidemment. Alors ça, c'est un autre débat, mais c'est, est-ce que, oui, mais ça n'a pas empêché Thomas Tuchel de gagner la Ligue des Champions alors qu'il n'a pas fait une grande carrière. Il y a des choses comme ça. Mourinho n'était pas un grand joueur, à ma connaissance. Ça l'a pas empêché d'être un des plus grands, coachs de sa génération, si c'est pas le plus grand. Mais, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que, comment sortir l'Allemagne de l'ornière où elle est aujourd'hui? Mais j'ai pas de réponse.
Alors, tu vois, il y a Ulrich sur le chat qui nous dit la sélection allemande part de trop loin et surtout ils doivent tout faire pour convaincre Jürgen Klopp. Il n'y a que lui qui peut les sauver. La sélection n'avance plus depuis des lustres. Oui, effectivement. Bon, la question
c'est possible. C'est possible, mais moi je n'ai pas. On peut me dire qu'il y a un problème de qualité quand tu vois l'Espagne. Mais on va revenir rapidement sur ça. Le match l'Euro 2024, les Allemands ont poussé l'Espagne à domicile en prolongation, mais l'Espagne est supérieure à l'Allemagne déjà à l'époque. Là, on vient de passer un an après, un peu, il n'y a pas photo entre les deux sélections. Donc bon, voilà.
Voilà pour, écoute, on va suivre ça, le développement de la sélection allemande, déjà qu'elle joue le mondial 2026, qu'elle arrache sa qualif pendant cette campagne. La minute, la deuxième de la soirée, elle est italienne, elle est pour Daniele. On envoie la musique, Paolo. Bestiale, per resistere agli urti della vita, ma quel che leggi sul giornale.
Eh ben, vous pouvez y croire ou pas, mais ça, c'est peut-être la chanson la plus représentative de l'optimisme de l'Italie des années 90. Mon oncle mettait la cassette de Luca Carboni littéralement à chaque fois qu'il montait en voiture, et encore aujourd'hui, cette chanson passe à la radio sans déplaire à personne, comme je viens de vous
et
dire.
Et ça fait de toi un homme optimiste ou pas, Daniele?
Ça fait, c'est un peu plus ironique maintenant. Voilà, on a un peu plus de recul sur les années 90. Mais je vous l'ai dit, c'est un pays très nostalgique de cette époque-là. Et ça, c'est une chanson qui représente un peu ça. Après, moi, je l'ai choisi parce que le physique bestial, bien que fragile, correspond à celui de Gianluca Scamacca, les grands absents des matchs contre l'Estonie et Israël. Alors, c'est un joueur peut-être pas très connu en France, même si avec l'Atalanta, il a gagné la Ligue d'Europe, l'Europa League, et il a même marqué un field contre Liverpool il y a 2 ans. Mais il a manqué presque toute la saison dernière à cause d'une blessure au genou. Et alors qu'il semblait prêt à retrouver en place des titulaires en sélection, c'est-à-dire il a marqué en début de saison, Retegui, il est parti en Arabie Saoudite, Moïse Kean, il n'est pas encore au top, mais lui, il a dû renoncer encore une fois à cause de nouvelles blessures. Et son parcours est riche, et c'est surtout riche de hype et d'occasions manquées. Quand il avait 15 ans, il jouait avec la Roma, et il est des Roms en fait, comme moi. Il est même d'un quartier pas loin de où j'ai grandi, donc j'ai beaucoup d'affection pour lui. Mais en même temps, si vous regardez les vidéos de quand il jouait avec la Rome à 15 ans, c'est un peu ridicule parce que le mec, il était déjà 1m95 et il jouait contre des enfants. On aurait dit Godzilla qui détruit Tokyo, quoi. Mais il avait aussi de la technique parce qu'il est 1m95, il fait des talonnades, des passes dans la profondeur, des demi-retournées. C'était un peu l'Ibrahimovic italien, on va dire. Mais quand il avait 16 ans, il est parti. Il allait à Eindhoven, jouer avec PSV à Eindhoven, bien sûr parce qu'il lui offrait de l'argent. Et après, son parcours, il a détourné, il allait à Sassuolo, donc il est revenu en Italie. Après, il allait à West Ham et après, finalement, à l'Atalanta. Mais il a toujours manqué quelque chose. Il n'a pas été constant, il a eu beaucoup de blessures. Et son talent, il a toujours resté potentiel. Il n'a jamais vraiment explosé, on va dire. Les Italiens le tentent depuis maintenant 10 ans. Et c'est aussi intéressant parce que justement c'est quelqu'un de très imposant, 1m95 je vais le dire pour la troisième fois, mais lui c'est un garçon assez doux, mais sa famille pas doux comme lui. Il y a des années son père s'est rendu au centre d'entraînement de la Roma où son fils n'est joué plus davantage depuis des années, et avec un bat de baseball il a endommagé des voitures, même une voiture des polices, on n'a pas compris pourquoi, peut-être qu'il demandait de l'argent de l'époque où son fils y jouait là-bas. Et peu après, il y a quelques semaines... Dis-moi Nico, excuse-moi.
Non, vas-y, fini Daniel.
Non, et donc juste après que son père il a fait ça, son grand-père, donc il avait une 70aine d'années, il a été arrêté dans un bar parce qu'il était un peu ivre, il a menacé une autre personne avec un couteau. Et donc Scamacca s'est retrouvé aussi à prendre des distances en disant « Non mais moi j'ai grandi avec ma mère et ma sœur ». Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une histoire très profonde, même s'il a que 26 ans. Et voilà, on l'attend parce que l'Italie elle a besoin de numéro 9. Là, on en a deux. Retegui et Moïse Kean, on les aime beaucoup, on les aime bien. Ils viennent d'une très belle saison. Mais le potentiel qu'il y a Scamacca, ça reste quand même au fond du cerveau des Italiens. Et on attend toujours que, voilà, qu'il puisse devenir un nouveau Balotelli, mais un peu mieux que Balotelli quand même. Parce que si Balotelli,
oui, quand même, j'imagine.
Il n'a pas gâché qu'il
en termes de régularité, en tout cas. Bon, en tout cas, il n'est pas là, oui, ce soir sur le terrain d'Israël. 0-0 face à Israël entre.
Heureusement, parce
face à la nationale. Donnarumma s'est troué. Heureusement, il a été sauvé par le check vidéo, hein, mais il s'est troué largement. 0-0. Allez, on vient dans un instant avec les drôles de dames, bien sûr, pour la suite de Génération After. Owen Ourunet, qui était le meilleur à 17 ans. On parlera de Manu Koné également. Reste avec nous sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
RMC.
J'ai toujours supporté l'afterfoot, c'est mon équipe du corps.
C'est voyager, jouer, se régénérer, voyager, jouer, se régénérer, voyager. Jouer, se régénérer,
encore une
voyager.
Fois, s'il te plaît.
Toujours 0-0 dans cette finale de la Ligue des Champions. Ça va être tiré de la droite vers la grosse.
Salut Nico, salut à tous. D'un incroyable seul coup, le degré de bogositude de ce plateau
monte massif.
Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les 4 drôles de dames sur RMC. Merci d'être avec nous. 32-16 ouvert. Vous nous appelez, vos messages également sur le chat de la chaîne YouTube de l'After et sur Afterfoot TV. Très rapidement, détour par Lorient. Match amical des espoirs français face à la Serbie. Xavier Grimaud est sur place. But incroyable de Matistel, Xavier.
Ouais, salut Nico, salut à tous. Effectivement, 1 minute 20 de jeu seulement et le magnifique but de Matistel. Une attaque qui part de la droite. Il repique dans l'axe et l'intérieur du pied gauche qui termine dans la lucarne du gardien serbe. Superbe but du joueur de Tottenham. 1-0 donc pour les Français donc dans ce match amical. On rappelle qu'ils avaient un match de qualification vendredi, mais que le match a été reporté suite à l'accident la veille du match du bus luxembourgeois, l'adversaire des Bleuets. 1-0 donc pour les Bleuets de Gérard Baltic. L'on joue depuis 9 minutes au Moustoir où il y a à peine 4000 personnes. C'est un peu tristoun.
Dis-moi, Daniel, c'est pas bon pour l'Italie, hein, pour un national. Mené 1-0 par Israël après 22 minutes de jeu. Un but contre son camp en plus. Ouais.
Oui, donc oui, c'est Locatelli qui a mis la balle dans les bouts, donc je pense qu'on peut le donner à l'Italie, ce bout-là, si on est d'accord.
Ouais, sauf
non,
que...
mais oui, Israël met la pression et l'Italie, elle n'arrive pas à sortir la tête de l'eau.
Si on en reste là ce soir, hein, l'Italie sera toujours troisième du groupe avec 6 points, à 6 points d'Israël et de la Norvège. Israël aura un match en plus, certes, mais quand même, ça va commencer à sentir le roussi pour la qualif, pour le mondial, pour la nationale qui a manqué les deux dernières Coupes du Monde. Faut-il le rappeler? Oui. Alors, Julien, c'est quoi ce débat-là qui surgit nulle part pendant la trêve internationale? J'imagine que les Anglais s'ennuient un petit peu et qui oppose Wayne Rooney et Michael Owen. Il y a un débat en France qui a agité il y a quoi, 3 semaines, qui était le meilleur, qui a la meilleure carrière entre Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic. Chez toi, c'est un peu pareil, ça a pris feu sur les réseaux notamment.
Ouais, un petit peu. C'est vrai que Michael Owen était invité par Rio Ferdinand, qui fait des émissions, qui fait des contenus sur les réseaux sociaux, etc., sur YouTube. Et l'interview de Michael Owen, qui est d'ailleurs très intéressante, il y a plein de choses intéressantes. C'est quelqu'un d'assez intéressant, Michael Owen, qui est plutôt marrant aussi. Et puis à un moment, la question vient sur les jeunes joueurs. Et Michael Owen a bien sûr été très très précoce dans sa carrière, puisque il a commencé à Liverpool à 17 ans. Et puis il parle de Mbappé, de Lamine Yamal. C'était vraiment un truc d'abord assez global. Et puis à un moment, je sais pas, c'est Michael Owen lui-même qui dit mais franchement, même en Angleterre quoi, qui était meilleur que moi à 17 ans quand je débute. Donc forcément, Rio Ferdinand balance le nom de Wayne Rooney qui est l'autre petit prodige de l'histoire du football anglais. C'est les deux qu'on a connus les plus précoces, les plus jeunes. Et donc Michael Owen répond non, sincèrement, il y a même pas de match quoi, il y a pas de débat entre Rooney et moi, c'est voilà, à 17 ans, j'étais bien meilleur que Wayne. Donc forcément, la machine médiatique qu'on connaît bien en Angleterre s'est mise en marche. Forcément, c'était un peu obligatoire. À tel point qu'à un moment, Michael Owen lui-même a répondu, si tu veux, à son propre point de vue, en disant « Oh, attendez, moi à 17 ans, j'ai marqué 18 buts en Première Ligue, j'ai terminé meilleur buteur de la Première Ligue. » Très bien. À 17 ans, quand Rooney avait lui commencé sa carrière, il est un peu plus jeune qu'Owen, à 17 ans, lui, il marque 6 buts dans sa première saison, donc à 17 ans de Première Ligue. Owen continue. À 18 ans, moi, j'ai marqué 18 buts. Encore une fois, je finis meilleur buteur de la Première Ligue. À 18 ans, Rooney marque 9 buts. Dans nos 7 premières saisons chez les pros à tous les deux, donc la mienne et celle de Rooney, je marque 117 buts contre lui, 80. Et puis après, il continue un petit peu en disant, voilà, à cet âge-là, il n'y avait pas de photo. C'est vrai, je trouve ça vraiment intéressant. Alors après, tu peux comparer un petit peu, puisque un est plus jeune que l'autre, les époques aussi, les équipes pour lesquelles ils ont joué. Le Liverpool de Wayne était bien plus fort que le Everton de Rooney, par exemple, avant que Rooney aille à Manchester United, même s'il allait jeune à Manchester United. Tu peux regarder aussi à 22 ans, où Rooney avait déjà remporté la Premier League, ce que n'a jamais remporté Michael Owen, par exemple. Donc, c'était assez intéressant. Et t'as forcément eu des pros Owen, des pros Rooney, des gens qui ont vu jouer Owen très jeune. Et je vous rappelle la Coupe du Monde 98. Le but de Michael Owen contre l'Argentine, c'est quand même un but extraordinaire à son âge.
Bien sûr.
Une compétition pareille dans une équipe aussi forte que celle de l'Angleterre, en tout cas avec aussi autant de talent et de personnalité que l'équipe d'Angleterre de l'époque. Mais le premier but de Wayne Rooney pour Everton contre Arsenal à 16 ans en Premier League, il est extraordinaire aussi. Donc il y avait vraiment, c'était marrant, t'avais vraiment deux courants qui s'opposaient un petit peu. Pour moi, la réponse, elle est très simple. Oui, je pense qu'à 16-17 ans, Michael Owen, c'était vraiment un phénomène extraordinaire de vitesse, d'efficacité devant le but, en une touche, en deux touches. Il n'y avait rien à dire. C'était un joueur qui avait été façonné en centre de formation. Les Anglais, à l'époque, avaient un genre de petit Clairefontaine aussi, comme l'INF Clairefontaine, d'où Michael Owen est sorti. C'était, voilà, il était comme ça. Il était bien plus mature que les gamins de son âge. Voilà. Rooney était peut-être pas aussi fort à ce moment-là, mais était déjà plus complet qu'Owen. Mais Rooney, c'est un joueur de rue, c'est un joueur des rues de Liverpool qui a joué dans la rue pendant toute sa vie jusqu'à ce qu'il débute chez les pros à 16 ans, même s'il a été au centre de formation d'Everton où il a, je suis sûr, appris beaucoup de choses, mais c'est dans la rue qu'il s'est fait, c'est dans la rue qu'il s'est façonné, que son jeu s'est développé, et ça restera, et c'est resté toute sa vie de toute façon un joueur de rue, un joueur de foot de la rue. Je pense que Owen était sûrement un meilleur buteur que Rooney dans toute sa carrière, mais encore plus au début, alors que Rooney a toujours été un meilleur joueur dans son ensemble, finalement.
Merci, exactement. Et la carrière de Rooney est plus aboutie que celle de Michael Owen.
Tout à fait.
Au final
tout
également. Enfin,
il était beaucoup plus blessé aussi que l'autre,
ouais,
dans le cas de Michael Owen, parce que c'est sûr qu'après 25 ans, c'est plutôt la même histoire pour lui en termes de blessure. Mais voilà, c'est marrant que c'est vraiment les deux prodiges du football anglais, plus que n'importe qui d'autre au monde, même plus qu'un Rashford, par exemple, dans leur histoire. S'oppose un petit peu comme ça, mais de façon très sympa, c'est
ce qu'offre aussi quelque part maintenant. Il y a du bon et du moins bon. Hein, les podcasts présentés par des anciens joueurs, quoi. T'as une parole beaucoup plus libérée et ça se chauffe un peu plus facilement que dans des médias traditionnels.
Il y en a surtout un qui a une tête de comptable et l'autre, c'est la pègre de Liverpool.
Oui, bah, c'est un Peaky Blinder.
C'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai toujours dit que Rooney, il a un seul défaut, il n'était pas allemand, quoi. Mais ce mec-là.
Tu l'as
comparer. En plus, c'est pas le même poste. C'est-à-dire qu'il est créé. C'est à l'époque, on considérait aussi que Rooney c'était un numéro 10. Quoi. Il y avait pas que ça. Il savait faire le jeu et tout. Owen, honnêtement, enfin, bon, c'est pas.
Bah, il était un peu chiant. Excuse-moi, il était un peu chiant. Owen, il est plus sauvage. Rooney, je trouve, tu vois.
Ah oui.
Et plus spontané, ouais, aussi. Gars de rue, comme tu l'as dit, ça devait.
C'est ça, c'est il laisse une marque beaucoup plus importante, faire, quand même. J'ai l'impression.
Oui.
Et puis Rooney savait tout faire. Défendre, attaquer, tacler de la tête. Voilà, techniquement, c'était impressionnant, mais quand tu regardes Owen à 17-18 ans, les buts que je mentionnais tout à l'heure en Première Ligue, là, sur ces deux premières saisons, à cet âge-là en plus, de marquer 17 et 18 buts en Première Ligue, dans des saisons quand même où tu as des très très grands attaquants, des très grands défenseurs, tu peux même considérer ça plus dur que la Première Ligue d'aujourd'hui, par exemple. C'est extraordinaire de vitesse, de vivacité, d'adresse devant le but. Il est incroyable, quoi, à cette époque-là.
Bah, c'est le jeune premier, Michael Owen. L'autre est un peu plus
et
punk.
Et le ballon d'or, hein. Ça reste le dernier ballon d'or anglais, ouais, aussi.
C'est vrai, t'as raison. Mais ça, ce ballon d'or à l'époque.
Ah, si, c'est vrai.
C'était quel les concurrents de Michael Owen à l'époque pour ce ballon d'or-là, franchement?
Il y avait que lui.
Bah ouais, je.
Ah non, t'as
regardé ça.
C'est juste une année où il n'y a pas de compétition.
Il y avait un boycott.
Oui, il n'y a pas de compétition à cette année-là, mais bon. J'ai oublié qu'il était deux fois meilleur buteur de Première Ligue à 17 et 18 ans. Ça, c'est beau. Raoul finit deuxième cette année.
Exactement.
Et Kahn, Oliver Kahn, troisième de classement Ballon d'Or à l'époque. Voilà.
Bah 2001, c'est le Bayern qui gagne la Ligue des Champions, mais avec un collectif plus que.
Il y a un Totti cinquième.
Cinquième Totti.
Voilà. Bon, en gros, la première place, c'est l'escroquerie complète et tout le reste.
Bon, voilà les gars. Si vous devez ressortir un prodige chez vous, là, au-dessus du lot dans l'histoire de votre foot national, ce serait Daniele, c'est qui chez toi le prodige? Toujours
Cassano.
Porté. C'est Cassano, bien sûr. On connaît la suite de la carrière.
Oui.
Un beau gâchis également. Edgar, ce serait quoi toi en Espagne?
Sincèrement, la Minimal. Bah,
c'est la Minimal, voilà, tu l'as dès maintenant. Et Polo, j'étais en Allemagne, prodige.
Ah, moi, aujourd'hui historiquement, non, pas que maintenant, mais pour moi, c'est celui qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, c'est Bernd Schuster.
Il faut
dire ce que disait Platini comment Platini parle de Bernd Schuster à l'époque.
Bon, voilà. En Angleterre, ouais. Oh, ouais. Il y en a plusieurs en Angleterre. Hein. Et puis, il y a le dernier qui arrive, dont Thomas Tuchel a dit qu'il le regardait. C'est Doman, c'est ça, il en parlait encore en conférence de presse. Thomas Tuchel il dit bien sûr, je surveille. C'est tout des sélectionneurs maintenant. Quand tu leur poses une question, oh, oui, je regarde. Voilà, ça veut tout rien dire.
Ouais, ils peuvent pas dire autre chose.
Ils peuvent pas dire autre chose.
C'est facile à dire.
Ouais, si tu peux dire, écoutez, il a 15 ans et demi, doucement les amis, on verra dans quelques temps, quoi. Tu vois, c'est aussi possible
c'est
de
vrai,
dire
ça. Mais ça collerait pas
trop dans le jeu de la précocité.
L'idéal anglais, oui, mais les Anglais aiment quand tu.
Oui, tu vois, ils aiment ça.
Chauffe tout le monde.
Comme il a un peu démago Thomas Tuchel parfois, voilà. Alors, du coup, on peut aller Manu Koné. Ça, c'est aussi, c'est un autre sujet, mon cher Daniele, parce que il se trouve que nos confrères de SoFoot ont agacé les tifosi de la Roma. Raconte-nous ça et pourquoi, en fait.
Bon, et parce que ils ont posé la simple question, Manu Koné, qu'est-ce que c'est que tu fais encore à la Roma? Et c'est une question franchement légitime, je pense. Parce que c'est vrai que c'est un joueur que, dans les dernières années, il a pris beaucoup de valeur. Aussi en équipe de France, Deschamps, il vient de dire qu'il fait partie des joueurs sous-cotés ou sous-évalués. Mais les tifosi de la Roma, ils l'ont bien connu cette année et il s'est affirmé comme un des meilleurs du championnat. Et on sait que l'Inter, elle a essayé de l'arracher. Quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à prendre Lookman et que la Roma, ils ont bien fait de le garder. Ils ont tout fait pour le garder même. Mais bon, les tifosi de la Roma, ils sont allés sur Twitter. Ils ont posté des images de la flèche en flamme de Notre-Dame ou des réponses même plus vulgaires ou antipathiques.
Ils sont susceptibles, les garçons, là. Hein, susceptibles.
Ah oui, très. Très, 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 il faut pas toucher les joueurs de la Roma, de la Lazio. Et, mais la question, voilà, c'est vrai, c'est une vraie question. Manu Koné, c'est un des meilleurs milieux au monde en ce moment et jusqu'où peut-il aller? Lui, il a répondu en conférence de presse aujourd'hui. Il a dit qu'il est reconnaissant de la Roma, que c'était une des rares équipes qui a cru en lui pendant la fenêtre des transferts après les Jeux Olympiques. Et c'est vrai, parce que quand il est venu de Mönchengladbach, il avait les yeux de Milan, assez Milan, il voulait chercher, mais la Roma, elle a été plus décisive, mais il n'y avait pas la queue pour Manu Koné. Et là aussi, à ce moment-là, c'est un joueur qu'il faut quand même bien regarder pour apprécier, parce que mais c'est défensif.
Il arrive à maturité, c'est défensif, la projection est impressionnante. Polo, oui. Tu l'as connu à Gladbach pendant 3 saisons, toi. Quel souvenir il a laissé? Est-ce qu'il y a un peu de regret de ne pas l'avoir gardé en Bundesliga, notamment? Il aurait pu trouver une
place. Pas forcément, parce qu'en fait, ces 3 années à Mönchengladbach, c'est les 3 années où on nous explique qu'il a du talent et on ne le voit pas spécialement sur le terrain. Mais je ne suis pas persuadé que la boulie était faite pour lui, en fait. Je pense que ça va être mieux pour lui que la Serie A est mieux à son correspond beaucoup mieux à son profil. Mais moi, je reste un petit peu sur ma faim de ce que j'ai vu en Bundesliga.
De toute façon, la suite de l'histoire, on la connaît. Il ira chez Julien Laurence et Manu Koné deviendra un frérot de Julien. C'est pas déjà le cas.
Tout à fait. Bah, en plus, c'est un Parisien, hein, comme moi.
Ah oui, c'est un Parisien en plus. Donc, ça va aller très vite. Oui, tu vas récupérer le 06 et dans les 10 jours.
Il y a quelques clubs qui s'intéressent à lui cet été déjà dans l'Angleterre.
Lesquels?
Ça viendra l'année prochaine. Des clubs Chelsea, de Manchester, j'imagine. Par exemple.
Hein, Manchester.
Non, Manchester, il est un peu trop vieux. Non, des clubs de Manchester. Moi, je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien à Manchester United s'il avait voulu y aller. Je ne sais pas si ça faisait partie de ses plans de carrière, mais oui, je pense que
c'est. Je ne sais pas si en ce moment, Manchester United, c'est mieux que la Rome. Hein.
Oui, non, tu as raison. Mais bon, c'est pour ça. Je ne sais pas s'il y serait allé. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quelques clubs qui ont regardé ce qui était possible de faire là-bas.
Manu Koné, qu'on verra peut-être demain soir avec l'équipe de France. Polo, ça y est, le Bayer Leverkusen a trouvé le successeur de Ten Hag.
Ouais, Kasper Juhlmann, alors ce n'est pas un inconnu du football allemand, déjà parce que c'est quelqu'un qui avait une cote assez énorme il y a longtemps, parce que Jürgen Klopp en avait fait une très belle publicité, parce que Juhlmann avait écrit un livre que je n'ai pas lu, parce que de toute façon je ne lis pas le danois, et Klopp avait dit qu'il avait été impressionné par la façon de voir le football de Kasper Juhlmann. Le problème, c'est que Juhlmann est arrivé à Mayence à l'époque, en successeur de Thomas Tuchel, si ma mémoire ne
2014,
me fait pas
défaut. C'est ça,
ouais. C'est ça. Et ce fut, entre la théorie et la pratique, ce fut un bide total. Mais c'est quelqu'un qui jouit un petit peu comme Ten Hag, j'ai envie de dire, qui jouissait en tout cas d'une très belle réputation. Et maintenant, évidemment, à Leverkusen, il va devoir montrer que tout ça fonctionne. Donc on sait qu'avec l'équipe du Danemark, il a fait des excellents résultats.
Demi-finale de l'Euro 2001.
Ouais, il a aussi à Nordjylland évidemment où il avait le temps d'être un bâtisseur, c'est bien. Donc c'est peut-être ce qu'a besoin le Bayer 04 Leverkusen, qui d'ailleurs est dans une défense à 3, est un petit peu la spécificité de Kasper. Maintenant, je reste, c'est une prise de risque pour être honnête. J'espère qu'il va réussir parce que le gars est super sympa en conférence de presse. Il t'explique le football comme beaucoup de professeurs de football, mais à Leverkusen, il y a quand même un objectif de résultat. Et ce serait bien qu'il fasse, notamment en Ligue des Champions, un beau parcours.
Voilà, Kasper Hjulmand, nouveau coach du Bayer Leverkusen. Allez, troisième minute de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique, Polo. Ah voilà, ça y est, on a la première soupe de la saison d'Edgar Grollo.
Cette chanson, elle vient de deux artistes hispanophones mais sud-américains, Danny Ocean et Capo. Mais je vous rassure, elle a très très bien marché en Espagne. C'est pour ça aussi que je la mets. Le titre de la chanson, c'est Imagínate, imagine-toi, imagine. Et c'est ce que je vais vous demander de faire, hein, si vous voulez bien. Je vais vous demander d'imaginer avoir la vie extraordinaire de l'ailier droit Jorge de Frutos. Il a vécu sa première sélection avec l'Espagne ce week-end. Imagine que tu nais et que tu grandis dans le minuscule village de Navarrés de Enmedio, en pleine campagne, à l'est de Valladolid. Imagine que dans ce village, il n'y a que 92 habitants. Ces 92 habitants, tu les connais presque tous parce que tes parents sont ceux qui gèrent le petit bar du village. Et c'est là où tout le monde se rassemble forcément. C'est juste en bas de chez toi. Imagine que t'adores le foot, mais qu'il n'y a pas de terrain. Alors tu tapes tes premiers ballons contre un mur de pelote basque. Puis tu commences à jouer pour un club local. Et à 19 ans, c'est le grand chamboulement. Tu te fais repérer par le centre d'entraînement du Real Madrid. Après quelques saisons en Liga, Valladolid, Levante, Rayo, tu découvres La Roja. À 28 ans, tout ton village regarde ta première sélection dans le bar de tes parents avec tous les médias du pays, le même bar où tu reviens encore tous les étés, pour essayer d'aider tes parents à servir tous les clients. Et bah cette villa que vous venez d'imaginer, c'est celle de Jorge de Frutos. La presse espagnole l'a désigné comme le symbole de ce qu'on appelle l'Espagne vide. C'est un peu comme la diagonale du vide en France. C'est une partie du pays à faible densité de population, voire à très faible densité de population. C'est seulement le deuxième joueur de l'histoire de sa province, la province de Ségovie, a joué en sélection. Et ça, même ses parents, même lui, il l'a dit, ne l'avait jamais imaginé.
Voilà pour la minute d'Edgar. Dans un instant, attention, gros débat. Dans le Dame, a-t-on besoin d'un grand neuf pour gagner une grande compétition? Il va vouloir forcément se la raconter avec ses sélections espagnoles encore une fois. Alors que la Suisse est en train d'étrier, mon cher Polo. C'est la Slovénie, c'est ça, 3-0 déjà.
La Slovénie n'aime pas les corners. De but sur corner, Elvedi et puis Mbolo.
Et puis je vous rappelle également que l'Italie est toujours menée 1-0. Face à Israël, rien ne va plus pour la nationale. Rien ne va toujours pas pour la nationale. Reste avec nous, la suite des Drôles de Dames sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les 4 Drôles de Dames sur RMC jusqu'à 22h, l'After dans la foulée avec Gilbert, Daniel, Jean-Louis Flogotro, invité événement, Joseph Ougourlian, le propriétaire du Racing Club de Lens, pour parler eh bien, notamment de la gestion de la Ligue de football professionnel. Lui, en tant que meneur de la fronde manager de la LFP, et bien sûr, anti-Vincent Labrune. Dans un instant, 22h sur RMC, l'After. D'abord, on prolonge avec les Drôles de Dames, bien sûr. L'Italie a égalisé, Daniele, magnifique.
Bah oui, bah oui. J'ai toujours cru en Moïse Kean, même 10 minutes avant les buts, quand il a raté un but de 20 cm de la ligne. Et après, il a marqué de l'extérieur de la surface.
C'est du Moïse Kean, exactement. Ça résume un peu sa carrière. L'Écosse mène 1-0 en terre biélorusse. La Suisse, je
chez disais... Adam, ce qui joue chez Daniele d'ailleurs.
Ah oui. Chez Adams. Et puis la Suisse mène toujours 3-0. Le Kosovo mène 2-0 face à la Suède. Surprise dans ses qualifs pour le mondial 2026. Et puis voilà d'autres résultats à venir dans la soirée, bien sûr 1-0 pour le Danemark sur le terrain de la Grèce également, et puis la Croatie mène 1-0 face au Monténégro. Alors Edgar, tu proposes un débat ce soir pour encore plus fanfaronner avec la sélection espagnole. Une sélection a-t-elle besoin d'un grand numéro 9 pour gagner une grande compétition? Bon, chez toi la réponse est toute faite, hein, pas forcément. Le dernier Euro l'atteste, hein, Morata n'est pas un grand numéro 9 par exemple.
Oui, et surtout quand on voit, enfin, j'ai pensé à ça par rapport au match d'hier avec Oyarzabal qui joue en faux neuf, qui fait un triplé de passes décisives, Merino qui met 3 buts, et en fait, tu as une équipe qui clairement n'a pas de grand numéro 9, qui clairement n'a pas de, qui ne joue pas avec un numéro 9 attitré, puisque tu l'as dit, le seul vrai numéro 9 de cet effectif là c'est Morata. On n'est pas sur un grand numéro 9 non plus, même s'il a une belle carrière. Et finalement, quand on pense à nos quatre pays respectifs, à part Harry Kane qui est un grand numéro 9, j'ai pas l'impression qu'il y ait un joueur de classe mondiale à ce poste là c'est-à-dire vraiment dans les 5 meilleurs de ce poste. Moi, mon avis, j'ai plutôt l'impression que la clé, c'est pas forcément le profil de joueur, c'est plutôt l'occupation de l'espace, parce que t'as besoin d'occuper cet espace quoi qu'il arrive, parce que sinon tu peux avoir, comme ça a été le cas par exemple par moment au Real Madrid la saison dernière, où t'as plusieurs centres qui vont arriver et personne qui se jette devant le but, là ça va être un problème. Mais quand cet espace-là est occupé, quand les joueurs à tour de rôle viennent jouer en remise, quand ils viennent avoir énormément de mouvements, que c'est bien coordonné et que, bah, comme à l'image de l'Espagne où un centre, tu vas avoir à la réception Yarzabal, le centre d'après ça va être Merino, le centre d'après ça va être un ailé ou un milieu, j'ai pas l'impression que ce soit gênant. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain notamment la saison dernière, qui jouait la plupart du temps sans vrai numéro 9 de métier. C'est pas pour autant qu'il y avait toujours un trou béant dans la surface et personne à trouver. J'ai l'impression que jouer avec un mauvais numéro 9, là c'est problématique, mais jouer sans vrai numéro 9, tu peux faire des belles choses si tu réfléchis ton jeu par rapport à ça, et si t'as d'autres joueurs qui arrivent à occuper l'espace, qui arrivent à être aussi bon dans les duels aériens parfois. Je pense que l'Espagne va attaquer la Coupe du Monde sans vrai numéro 9 et je pense que ça va pas forcément être un gros problème pour elle.
Bon, alors, j'ai remonté un tout petit peu, hein, tu vois, jusqu'à l'Euro 2008 pour voir si les sélections vainqueurs d'une compétition internationale avaient un grand numéro 9. En 2008, il y avait Fernando Torres, pour considérer que c'est un grand 9. David Villa en 2010. En 2012, l'Euro vainqueur remporté par l'Espagne, David Silva, qui voilà, qui n'était pas un 9, tout simplement. Klose en 2014, 2016, non. Euro 2016, Ronaldo, Nani. Klose, grand numéro 9, Polo ou pas? Quand même, énorme.
Non, mais il n'est pas titulaire au début de la
compétition. Oui, il finit la compétition quand
c'est
même.
Thomas Müller, c'est Thomas Müller.
Tout à fait.
Au début.
Il est titulaire en finale, Klose.
Oui. Ouais.
Ronaldo, Nani en 2016, la doublette. Giroud, 2018, le mondial. 2020, Ciro Immobilier. Comment on le considère, mon cher Daniele?
Ben, très bien, moi très bien, mais en Italie il n'est pas... Non, on ne le considère pas très bien.
D'accord. Julian Alvarez en 2022 avec l'Argentine.
Qui fait un grand mondial.
Ouais, et puis donc Morata à l'Euro 2024. Qu'en pensez-vous les gars, la question que pose Edgar, mon cher, tiens, puisqu'il a cité Harry Kane. Vas-y Polo, et après Julien.
Non, mais c'est, moi la question que je ne comprends pas, c'est que c'est quoi un grand numéro 9? Parce que si on me dit que Morata c'est pas un grand numéro 9, ça veut dire que Klose n'est pas un grand numéro 9 non plus. Au vu de sa carrière.
Oui, mais avec
Klose, 14 buts en Coupe du Monde,
c'est quoi le club? Non, mais oui, mais là, on parle pas de gagner des matchs le week-end en championnat.
On parle de ça, dans un très grand rendez-vous. Qui est bon en sélection, alors.
Ah, je sais pas comment tu veux le définir, toi, Edgar, ça, justement.
Moi, je pense que je parle plutôt d'une équipe qui jouerait sans numéro 9, c'est-à-dire un numéro 9 concret qui est là, qui est titulaire à tous les matchs, qui va te mettre des buts quasi automatiquement quand tu lui fais un centre sur la tête. Je suis pas sûr aujourd'hui que tu sois obligé d'avoir ça, même si après il y a toujours cette phrase qui est vraie. C'est sûr que t'as un grand gardien, t'as un grand buteur. Normalement, c'est aussi la clé pour gagner des grandes compétitions. Mais j'ai l'impression qu'il y a des coachs aujourd'hui qui, mais il y en a eu aussi par le passé, mais qui ont la clé parfois pour être performants sans numéro 9.
Et Nico ?
Vas-y, Daniel.
Je peux te faire l'exemple de Liverpool, que si vous regardez les équipes des jeunes de Liverpool, ils commencent à jouer avec deux numéros 9, en fait, à 4-4-2, parce que justement, c'est très difficile de former un numéro 9 en ce moment.
Dis-le, et Daniel, tu fais le travail de Julien Laurence, n'hésite pas. Hein.
Non, c'est que j'ai connu un peu Julien Ward, le directeur technique de Liverpool. Que justement il a eu cette idée, ils ont eu cette idée à Liverpool, parce que si toutes les équipes des jeunes jouent 4-3, ben t'as la moitié des possibilités d'avoir un vrai numéro 9. Lorsque si tu joues 4-4-2, tu vas peut-être sortir un numéro 9 de tes équipes juvéniles, et c'est très important parce qu'il n'y en a pas, il coûte très cher. Après, ça dépend aussi comment joue l'équipe. Arsenal par exemple, je ne pense pas qu'il avait vraiment besoin des Gyökeres pour comment il joue. Il jouait mieux avec Merino ou avec un faux numéro 9. Mais c'est vrai que les numéros 9, ils sont très très chers dans les marchés.
Oui, sauf qu'Arsenal n'a jamais gagné pour le coup, Daniel, et cherche toujours à gagner.
Je pense que c'est pas les
numéros 9 qui l'Angleterre a jamais gagné avec un des meilleurs numéro 9 du monde aussi, hein, et Harry Kane, donc comme quoi.
Tout à fait. Bon. Voilà, Edgar. Bon, ton débat là a fait pchit.
Mais est-ce que
non, non,
mais
il faut savoir si.
C'est la question du grand numéro 9. Moi, je sais pas ce que c'est qu'un grand numéro 9. Parce que si on me dit que
Morata, c'est pas un. Oublie la mention grand, à mon avis, Polo. Est-ce qu'il faut vraiment un 9 caractéristique, le 9 classique, le 9 qui est retrouvé des centres.
Donc je rappelle qu'en la Coupe du Monde 2014, c'est Thomas Müller qui commence la compétition, oui. Et c'est ensuite il sera mis sur le côté droit et c'est Miroslav Klose qui sera titulaire. La question aujourd'hui, les Allemands déjà ils aimeraient bien se la poser, c'est-à-dire que eux ils auraient besoin vraiment d'un grand numéro 9 parce que c'est leur histoire au passage, hein, sans revenir à Gerd Müller. Quand tu vois, quand t'as les Rummenigge et tout ça, ça aide quand même à avoir un palmarès. Maintenant, n'oublions pas que la question à ma connaissance, du faux neuf, entre guillemets, ça date d'il y a une vingtaine d'années, quoi. Donc, ça devient systématiquement, avec Guardiola, etc., ça fonctionne. Maintenant, moi, je me rappelle toujours de la phrase de Jürgen Klopp, c'est bien d'avoir des joueurs techniques qui sont dans la surface, qui savent tout faire et tout ça, mais moi, j'aurais juste un mec qui soit capable de mettre un gros coup de boule sur un corner, quoi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a ce genre de profil. Et c'est pour ça que Samaka, c'est passionnant, parce que tu peux travailler avec des mecs comme ça dans la surface. C'est, on dit, ouais, mais il marque tout le temps, mais c'est pas que ça, c'est le travail qu'il fait sur la défense. C'est comment il empêche les défenseurs, etc. Ça permet de libérer des espaces pour les autres. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu as un faux neuf qui joue. Donc moi, je trouve que ce débat, vaut mieux avoir un neuf, quoi. Un mec qui s'est planté et qui a pas besoin de 50 occasions pour mettre au fond. Et t'as pas forcément besoin d'un grand neuf. T'as besoin d'un neuf, on le voit avec Kleindienst, on le voit avec Füllkrug, qui sont pas des grands joueurs.
Oui, le neuf caractéristique, quoi. Le neuf qui va saper une défense, qui va faire un travail.
Exactement.
Type Kamaka, Olivier Giroud, voilà. Ça, on se regarde.
Horst-Rubesch n'était pas un grand défenseur.
Mais exactement.
Voilà, c'est une question de sensibilité, en tout cas. Il y a celle de Polo.
Oui, mais c'est possible. Ça montre bien que c'est possible de gagner une finale de Ligue des Champions 5-0 sans avoir de numéro 9.
Tout à fait. Julien.
Ça dépend de ton style de jeu. Il faut un neuf qui s'adapte à ton style de jeu et qui correspond à ton style de jeu. Ce numéro 9 là, il peut être différent pour l'Espagne avec Oyarzabal que pour le PSG, que pour l'Allemagne, que pour l'Angleterre, que pour l'Italie. Ça dépend beaucoup de ton style de jeu. Si l'Italie continue à jouer avec Retegui et Mosy Kane ou même Scamacca et Retegui, ça peut très bien le faire pour leur style de jeu, le style de jeu de Gattuso. Mais ils auraient pu aussi gagner avec un autre numéro 9, avec un autre style de numéro 9 dans un autre style de jeu.
D'ailleurs, moi, un des meilleurs attaquants de l'Italie que je me souviens, c'est Di Natale en position de faux numéro 9. Quand il a marqué aussi contre l'Espagne, je ne me souviens plus en quel championnat d'Europe. Mais c'est vrai que nous aussi, on n'a pas de numéro 9 depuis longtemps. Et les meilleures équipes italiennes, c'était avec des solutions alternatives. Ou Totti avec la Roma, quand dans les années 2000... Totti il s'est blessé et après il a commencé à jouer numéro 9 attaquant et il a gagné même la chaussure dorée,
le soulier d'or
ouais.
Bien sûr, mais c'est marrant, c'est comme si, je sais pas, ce numéro 9 classique dont on parle, il en reste très peu. Hein. Bien sûr, Harry Kane est un vrai 9 également aujourd'hui. On peut citer également Lewandowski, exactement. Je sens que ce poste-là est un peu désuet, presque devenu kitsch dans l'esprit de beaucoup de techniciens qui, intellectuellement, veulent se priver d'un rôle défini comme celui-ci, en fait. C'est le temps d'avant, ne nous emmerdez pas avec vos 9 qui campent.
Ils favorisent la technique. Donc on va chercher des joueurs par exemple qui sont moins grands.
Enfin,
Danieli vient parler de l'Italie à Squadra 82, c'est Paolo Rossi, faut pas l'oublier quoi. Enfin c'est un truc de fou. On a l'impression que ce poste est presque mal aimé maintenant. Alors je sais pas si c'est mal aimé en France ou si c'est une mode aujourd'hui.
En France, en Espagne.
Quand même, faut quand même se rendre compte que ça apporte un œuf sur le terrain quoi. Quand t'as une demi-occasion et que le mec te la met au fond, tu peux faire 50 passes avant et ne rien faire. Moi je me rappelle la période Guardiola du Bayern, il y avait un moment c'est bien d'avoir la possession dans tous les sens, faire des passes etc, mais si t'as pas un mec pour mettre un coup de boule et que ça rentre, moi je suis désolé, mais on peut tenter, évidemment on peut préférer le football de tricoter, dribbler tout le monde et rentrer avec la balle dans les buts, mais je suis pas persuadé que ce soit le plus efficace.
Oui, après t'as vu, tu caricatures un peu parce que le PSG, c'était un Dembélé par exemple pouvait marquer des buts en déviation la saison dernière. C'était pas uniquement passement de jambes, roulette, frappe enchaînée. C'était aussi un vrai travail intense de pressing.
T'aurais pas dit ça en début de saison.
Non, bien sûr. Sauf que Dembélé s'est parfaitement adapté à ce rôle-là et qu'il l'a fait évoluer. Bon, voilà les amis. Bravo Edgar. Finalement, c'est un bon débat. Resterait plus de temps.
Mais par contre, moi, je pense que si j'étais entraîneur, alors évidemment, tous les supporters de foot sont très contents que je sois pas entraîneur parce que ce serait pas super. Mais je pense avec un neuf parce que évidemment, c'est beaucoup plus simple et c'est comme disait Polo, ça travaille sur la défense et je pense qu'il faut avoir un niveau de réflexion tactique aussi. Peut-être parfois plus avancé quand tu joues sans neuf parce que tu dois compenser des choses que t'apporte ton avant-centre.
Bon, voilà pour ce débat. C'est l'heure de la quatrième minute musicale de la soirée. Elle est anglaise, on envoie la musique, Polo.
Dommage parce qu'on a perdu un grand chanteur aujourd'hui, Henrik Davis, chanteur de Supertramp bien sûr, dont vous avez reconnu la chanson, j'en suis sûr. Et en fait j'avais une minute avant sur Peter Crouch qui a fini dernier de son championnat de fantasy football en Angleterre, le fameux Fantasy Premier League qui est un petit peu le bon petit gazon que vous avez chez vous et chez nous en Angleterre. Et souvent quand tu finis dernier de ton petit championnat avec tes copains, bah t'as un gage quoi. Et puis lui son gage c'était d'être une mascotte lors d'un match de 7e division, donc semi-professionnel à Farnham, où donc il est rentré sur le terrain en tenant la main d'un joueur qui jouait lui sur le terrain, donc il était largement déjà plus grand et plus vieux que tout le monde. Mais c'était assez marrant de voir Peter Crouch. Mais je voulais aussi parler de la première journée du championnat féminin de d'Angleterre bien sûr.
Vas-y.
Non mais je te rappelle, Daniel il a fait 12 minutes.
C'est vrai,
sujet qui intéressait personne. Scamacca il a fait 2 minutes. C'est bon, il était blessé, maintenant il est fort, il revient, il nous a fait 12 minutes. Donc moi je me suis dit, c'est 2 minutes.
C'était pour pas regarder Italie-Israël, sinon je suis obligé.
Oui, on a bien compris Daniel. On a bien compris. Non, t'inquiète pas. Mais et donc un peu de WSL quand même, parce qu'on a vu une très belle première journée avec une victoire de Chelsea contre Manchester City, le Chelsea de Sonia Bonpastor, qui repart sur les mêmes bases que son des dernières, même si c'est pas souvent du très beau football, c'est efficace, ça gagne. Et puis on attend le début de Grace Guayoro bien sûr, qui a été transféré du PSG à London City. Liane aussi, c'est la joueuse la plus chère de l'histoire du football féminin, donc bravo à Grace. En plus c'est Maros, donc
c'est une sœurette, voilà, ça y est,
bien sûr, c'est
question.
Une sœurette. Et elle sait très bien à quel point, même si elle va manquer au PSG, à quel point je suis content qu'elle vienne là, à Londres avec nous. Et puis plein de Françaises et de Français. Jocelyn Prêcheur, bien sûr, encore une fois, à London City. Melvin Mala avec Manchester United qui a marqué un doublé pour United lors du doublé. On a vu Everton remporter le derby de Liverpool contre Liverpool à Anfield. Donc voilà, c'était une très belle première journée de WSL, le meilleur championnat féminin au monde.
Polo, Supertramp, non, oui, non.
Bah oui, quand même, Polo.
The Logical Song, j'aime bien, ouais.
Ouais, quand même. Quand même.
Pas fan absolu.
Voilà les amis pour cette minute de Julien.
Et les Schools aussi, je crois, si je me rappelle mieux.
Ah, ça, je l'ai pas, ça. Dans un instant, on va parler du mercato, bilan mercato, notamment en Bundesliga. Reste avec nous, avec Polo, Julien, Daniele et Edgar. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les drôles de dames, avant de passer la main à l'after, invité Joseph Ogourlian, propriétaire du Racing Club de Lens. Rapidement le direct, c'est aussi France-Serbie, les espoirs. C'est la mi-temps, Xavier Grimaud à Lorient.
Ouais, c'est la mi-temps depuis quelques instants. 1-0 pour l'équipe de France, le magnifique but en lucarne de Mathis Tell dès la première, deuxième minute de jeu. Les Bleuets dominateurs, sans se créer énormément d'occasions. On a vu Wilson Odobert qui a un petit peu refusé le jeu, il a été tout seul, il aurait pu centrer au deuxième avec Baoya qui était tout seul et une frappe du Gouchoukou qui est passée au-dessus des buts. Mais bon, la domination des Bleuets sans pour autant survoler la rencontre. 1-0 pour les joueurs de Baticle.
Julien, info importante chez toi, ça concerne Manchester City qui n'aura plus la même liberté pour faire rentrer de l'oseille grâce à son propriétaire désormais.
Ouais, alors c'est pas tout à fait très clair, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que la première ligue Manchester City était en bisbille un petit peu. Alors c'est pas le grand procès du siècle dont on vous a régulièrement
parlé. Ça n'en pas en cause en tout cas.
Non, ça n'en pas en cause du tout. C'est un truc complètement différent, mais ils sont parvenus à un accord à propos de l'arbitrage qu'avait entamé Manchester City. Ils n'étaient pas contents un peu plus tôt dans l'année concernant les règles de transaction entre parties associées en Première Ligue. Donc les règles de la Première Ligue, quand vous aviez un contrat sponsoring par exemple avec une société qui était déjà associée à votre propriétaire, pour simplifier les choses grandement, Et donc il y avait un litige entre les deux à ce propos-là. Aujourd'hui, ils ont trouvé un accord pour mettre fin à ce litige. Et Manchester City reconnaît maintenant donc la validité et le fait que les règles de la Première Ligue sur ces transactions entre parties associées donc sont valides et sont bonnes entre guillemets, donc on peut les appliquer finalement, ce qui va donc permettre par exemple à Manchester City de continuer à avoir des contrats de sponsoring, ce qui va faire bondir Polo bien sûr, mais avec des sociétés qui appartiennent finalement à son propriétaire un petit
ah
peu.
Ah d'accord, j'ai pas compris aussi. Ça comme ça, ils peuvent continuer à faire ça en fait avec
voilà,
des sociétés commerciales qui appartiennent au fonds souverain d'Abu Dhabi par exemple, et comme Newcastle avec l'Arabie Saoudite, ils pourront continuer
exactement,
de le faire. Donc, incroyable.
Moi, je m'attendais par exemple cette.
Mais ça change rien en
ouais,
fait.
Attendez, cette décision.
C'est quoi, l'accord est en faveur de City.
C'est de l'escroquerie dans
ce
tout
ça. Oui,
ouais, ils attendaient donc cet accord-là pour pouvoir renégocier avec Etihad Airways, qui est donc la société aérienne d'Abu Dhabi, qui est aussi détenue par les mêmes propriétaires que Manchester City par exemple. Donc,
tu vois, je crois que
c'est un accord qui change rien du tout.
Mais c'est fou. Incroyable. Bon, voilà. C'est valable pour Newcastle.
C'est même pire parce qu'on le valorise en fait.
Bah, c'est-à-dire maintenant, t'as le droit. Maintenant, t'as le droit. Il n'y a plus de problème.
Maintenant, t'as le droit.
Vous voulez de l'oseille de votre compagnie aérienne qui appartient à votre propriétaire, c'est bon, allez-y. Ça passera en sponsoring. Ok. Bon, tiens, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va quand même faire un point rapidement bilan mercato. Je rappelle quand même les données. Bon, évidemment, vous le savez, l'Angleterre a envoyé l'oseille, plus de 3 milliards d'euros sur le mercato. Je vois que l'Allemagne, comme la France, seul pays des 5 championnats majeurs européens, ont une balance transfert favorable à l'étude de mercato qui s'est terminée la semaine dernière. Polo, je crois, si je ne me trompe pas, plus 160 millions d'euros pour les Allemands qui ont vendu au total plus d'un milliard d'euros. Un milliard d'euros vendus.
Alors, c'est plus d'un milliard d'euros de recettes, dont en gros les deux tiers qui viennent de Première Ligue.
C'est ça.
Ce qui est historique, aussi bien par le montant des recettes que par l'investissement de la Première Ligue. Et cela, évidemment, fait beaucoup réagir. Je rappelle rapidement, avoir un solde positif pour la Bundesliga, ce n'est pas la première fois, mais c'est arrivé notamment pendant le période du Covid où les Allemands avaient besoin d'oseille comme tous les clubs européens. Et historiquement, juste avant le Covid, la balance commerciale, je veux dire, des transferts était négative en Allemagne, ce qui montrait la bonne santé des clubs. Et là, évidemment, ce n'est pas une volonté, c'est que c'est subi, puisqu'il y a deux tiers d'argent, et jamais la première ligne ne s'est autant servie qu'en Bundesliga, alors que le football allemand l'année dernière en Coupe d'Europe était mauvais, les résultats n'avaient pas été bons, donc enfin, il y a en fait une dissociation entre comment tu investis et tes résultats sportifs. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que depuis à peu près un mois, il y a des discussions sans fin par rapport à ça. Et je vous ai parlé, je ne sais plus, c'est la semaine dernière, il y a 15 jours, de la fameuse course d'Ora qui est utilisée systématiquement pour dire, en gros, la Bundesliga, arrêtons de vouloir suivre la première ligue, ça ne sert à rien. Mais moi, ce qui me fait plaisir, même s'ils mettent 25 ans pour s'en rendre compte, c'est que il y a par exemple le patron de Brême, Klaus Filbri, qui a fait une déclaration assez extraordinaire, qui dit: le football européen est foutu, le football globalisé est foutu, moi j'arrive plus à suivre. Donc je rappelle quand même, Brême, c'est pas n'importe quoi dans l'histoire du football allemand, c'est aussi un stade de plus de 40 000 personnes. Aujourd'hui le Bayern subit ce qui vient de se passer avec Newcastle, évidemment c'est le transfert de Voltemed, PSG ou Manchester City. Moi j'arrive pas à suivre déjà ce que fait Dortmund et le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Donc il faut absolument qu'on revienne à une forme de régulation du football. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est que les Allemands commencent à comprendre que ça ne sert à rien, cette histoire de transfert et de vouloir être compétitif à ce niveau-là, puisque la puissance de la Première Ligue ne suffit largement pour en gros remplir les caisses des clubs allemands, et qu'on n'a plus besoin d'être compétitif en Coupe d'Europe, puisque finalement ça ne sert à rien. Et le vrai problème, il n'a pas encore été mis sur la table, c'est pas le fait de l'exploitation des clubs anglais. Le problème, c'est les propriétaires. C'est-à-dire que quand tu peux, en plus d'avoir un championnat qui est le plus riche du monde, avoir des propriétaires qui mettent l'oseille en plus, c'est encore plus pour les autres compliqué. Or, l'énorme paradoxe, je le dis, pour le football allemand, c'est que jamais les clubs allemands n'ont été aussi bons dans la gestion et aussi riches, mais jamais ils peuvent aussi peu investir, non pas en volume, puisqu'ils ont dépensé plus de 850 millions d'euros, mais par rapport aux top joueurs internationaux. Mais apparemment, ils commencent à se dire, mais on s'en fiche, finalement. Et jamais on a eu autant de personnes qui sont membres des associations allemandes. Donc c'est un énorme paradoxe. J'ai presque envie de dire un contre-modèle, ce qui n'est pas vrai par rapport au modèle allemand. Mais avoir la déclaration du patron de Brême, je veux dire, avant, quand quelqu'un dit ça, on dit, ouais, t'es un communiste, toi. Mais le mec, c'est le patron de Brême. Il dit, c'est n'importe quoi. On est en train d'arriver à un système qui est complètement ridicule. Et moi, je bois du petit lait avec quand j'entends des déclarations comme ça. Ça fait des années. Enfin, il suffit de s'intéresser un petit peu. Mais l'autre problème qui risque de se passer pour les autres championnats que de la Bundesliga, c'est que si la Bundesliga se met à former pour la Première Ligue, par exemple. Mais c'est quoi les petits championnats? Il en reste quoi?
Ben oui. Tout à fait. Il te restera deux mastodontes en Allemagne et les autres se feront dépoiler par...
Non, mais même la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal et tout ça. Si les Allemands se mettent à faire de la formation, comme ils sont plus puissants que les autres, ils vont attirer les meilleurs joueurs. Et au bout de deux ans, ils vont les refiler à la Première Ligue.
Tout à fait. D'ailleurs, Première Ligue, résultat fin de mercato, balance des transferts, ventes et achats, moins 1 milliard 417 millions d'euros. Voilà, sur,
c'est ça qu'il faut regarder.
Le mois et demi du mercato. Voilà.
Donc c'est chiffre ça, d'affaires annuel de la L1 nouvelle version.
Voilà. Moins 1,5 milliard négatif pour la Première Ligue. Alors la Liga, elle, se maintient à environ moins 60 millions d'euros. La Serie A à moins 80 environ. Seule la Ligue 1, forcée bien sûr de faire des économies, de ne pas trop dépenser et de surtout beaucoup vendre. Et la Bundesliga sont dans le vert. Voilà, on en reparlera bien sûr très bientôt. Alors, merci les Drôles d'âmes, merci Julien, merci Edgar, merci Daniele. Toujours un partout entre Israël et l'Italie.
Daniele, encore une minute peut-être pour finir. Une minute.
Ouais, une petite minute.
De 5 minutes, il nous reste 5 minutes.
T'as tout dit jusqu'à Maca, Daniele, ou pas? Non, c'est bon.
Si vous voulez, je vous fais la chronique de ces matchs de folie.
Oh, l'autre nous a fait 3 minutes sur le foot féminin en Angleterre et il se la ramène à la fin.
Bon. Ah oui!
Ça va croquer les sœurettes, quoi, en plus, et les faire briller. Merci, les amis. Rendez-vous la semaine prochaine. Dans un instant, l'after. Joseph Gourlian est l'invité de Daniel Riolo. Gilbert Bribois, bonne soirée à tous sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.